Pour ce nouvel épisode du Hang 5 Podcast, on se rend à Paname. Au début des années 80, Moto Bécane, célèbre marque française, est déjà très active dans le petit monde du BMX Race et cherche de nouvelles avenues pour promouvoir ses produits. Le freestyle est à ses tout débuts. Pour ne pas rester en rade, le constructeur va vite recruter un petit gars talentueux au nom espagnol. Fondateur du team mythique Mad Dogs, champion du monde flat à Paris en 89 avant de virer très street et mini-ramp, puis enfin trail. Parisien depuis toujours, il est de retour dans la capitale après un court séjour dans le sud-ouest. Toujours sur deux roues, même si elles ont parfois plus de 20 pouces, voici l'histoire de José Delgado. Et salut José, comment tu vas?
Ça va pas mal.
Ça va. Ouais, je suis très content de pouvoir discuter avec toi, ça fait plaisir. Pour ce podcast, donc pour le Hang 5 Podcast, on voulait parler un peu de tous les gens de notre génération et de plus tard aussi. Pour tes débuts à toi, comment t'as commencé en fait? Le BMX, c'est venu comment?
En fait, moi, je faisais du skate. Quand j'étais plus jeune, je faisais du skate. Et au milieu, tu sais, la vague du skate, c'était milieu fin des années 70, en France en tout cas. Et à Paris, moi j'ai toujours habité à Paris, à part dernièrement où j'étais dans le sud-ouest. À Paris, il y avait deux skateparks, des vrais skateparks, tu vois, des vrais skateparks à l'américaine. Il y en avait un Porte de la Villette, et il y en avait un peu plus en banlieue dans le sud-ouest, à Issy-les-Moulineaux, quoi. Mais des vrais skateparks, tu vois, avec des snakes, des balls, des trucs comme ça. Et donc moi, je faisais du skate là-dedans. Quand j'ai dû commencer le skate, je vais avoir 13 ans, 14 ans. Et j'ai fait du skate assez longtemps. Il y avait aussi un tout petit skatepark dans le bois de Boulogne, près de Paris.
D'accord.
Et en fait, je skatais de plus en plus. Et il y avait un groupe de skateurs qui était quasiment des plus hauts à Paris, qui était assez connu. En fait, un crew, tu vois, un crew de skateurs assez connu. Et ils recevaient, eux, des magazines de skate des US. Et une fois, dans un magazine de skate des US, j'ai vu un mec en vélo dans un skatepark. Et là, ça m'a fait « waouh ». Je me suis dit… Le mec, il fait ce qu'on fait en skate, mais avec un vélo, dans un skatepark. Et ça, je ne sais pas qui c'était, peut-être Tinker Juarez.
Ouais, Tinker Juarez.
Et donc, je me suis dit, putain, ça a l'air cool. Du coup, à partir de là, j'ai commencé à chercher, voir si ça se trouvait, ça, des BMX, tu vois, des vélos comme ça. En fait, on avait trouvé, mon frère m'accompagnait des fois quand je faisais du skate. Et finalement, on a trouvé, je ne sais plus, on avait acheté ça, mais un Raleigh Burner. Et on avait acheté un peu pour nous deux, on n'avait pas trop d'argent. On s'est dit, bon, voilà, on va acheter ça, puis on va essayer. Moi, je continue à faire du skate, et on va prendre le vélo, et on essaiera dans les skateparks. Et c'est comme ça que j'ai démarré, et ça devait être mi-83.
Donc, tout au début.
Ouais.
OK.
J'ai appris qu'après, il y avait des gars qui avaient commencé bien avant moi. Hein.
Ailleurs en France, ouais.
Paris, mais je ne savais pas. Par exemple, Google, tu vois, Alexis de Zolneux, lui, il a commencé en 82. Moi, je ne le savais pas, je ne connaissais pas, je ne connaissais absolument rien, en fait, du BMX. J'avais juste vu cette photo dans un magazine et après, j'ai commencé à rencontrer des gens et ça a évolué comme ça, quoi.
OK. C'était un peu, ouais, tu roulais avec ton frère un petit peu, tu as commencé à rencontrer gens.
Mon frère, en fait, lui, se déplaçait un petit peu plus et il avait rencontré Franck Pétou, je ne sais pas si tu connais.
Oui, les spin rats.
Franck Pétou, qui a inventé plus tard le snow scoot. Ça a fait partie aussi de ma vie, ça. Et donc, il voyait Franck Pétou, tu vois, il allait des fois s'entraîner avec Franck Pétou qui en faisait en bas de chez lui. C'était à Neuilly, donc pas loin d'où on habitait nous. Franck, pareil, allait souvent aux États-Unis et donc ramenait des super vélos de là-bas, tu vois. Nous, on a vu des vélos qu'on ne connaissait pas, comme des Redline, comme des GT, des choses comme ça. Et par la suite, j'ai acheté un GT donc à Franck Pétou, un ancien vélo à lui ou juste le cadre, je ne sais plus. Et je me suis monté là, mon premier, en gros, vrai vélo, quoi. Et on essayait de bouger un petit peu partout où on trouvait des spots. En fait, je ne faisais pas vraiment du flat ou pas vraiment. On faisait du BMX, quoi.
Il n'y avait pas de séparation à l'époque.
Ouais, ouais.
La race, t'as un peu essayé ou c'était pas ton truc? T'étais plutôt urbain?
Non, je n'ai jamais fait de race, en fait. Parce que, comme j'aurais bien aimé, parce que, tu vois, ça me servirait encore aujourd'hui. Là, tu vois, là, je rentre d'une session de VTT, là. Et demain, je vais faire du trail, là, en BMX. Et la race, je trouve que c'est une super base pour ça. Moi, j'ai jamais eu ça parce que j'ai jamais eu cette approche. Moi, c'était le côté vraiment freestyle, du skate dans les skateparks. Donc après, j'ai enchaîné avec du BMX dans des skateparks et après en flat et un peu tout, quoi. Mais j'ai pas eu cette approche par la race. Je connaissais pas du tout. J'ai appris après, en fait, qu'il y avait de la race qui existait bien avant, quoi.
Oui, ouais, c'était le début. Mais quand tu vois des gars comme Chad Curley, là, aux US, le streeter qui roule pour Arrow, il a fait je ne sais pas combien d'années de race avant de passer en free.
Et ça donne des bases extraordinaires. Moi, je connais plein de gars qui roulent avec moi en trail ou quoi. Et quand tu as fait de la race, tu as un riding tout de suite différent. Tu sais pédaler, moi, c'est ce que j'ai toujours moqué de moi en disant tu sais pas pédaler, quoi. Parce qu'un racer, il sait pédaler. Un freestyler pur, il sait pas pédaler. Il sait pas
Exact.
accélérer, il sait pas faire des choses comme ça. Et moi, je sais très bien que c'est une de mes lacunes, ça a toujours été, quoi.
Je vois, ok. Tes premières influences, alors tu découvres un peu le BMX à travers des magazines de skate d'ailleurs. Tu rencontres Franck, il y avait
Ouais.
des gens à qui. Il y avait déjà d'autres magazines que tu regardais, BMX Plus ou BMX Action.
Ça, c'est arrivé après BMX Action. Ouais, Franck en avait, je crois. Je sais même pas si c'était BMX Action ou si c'était autre chose. Franck en ramenait des US. Et après, j'ai rencontré aussi, c'était à peu près à la même période, j'ai rencontré Jean-Luc Ferré, tu
Oui.
vois, parce qu'on traînait en fait sur des spots où on essayait de trouver des endroits où il y avait des rampes, où il y avait des spots peut-être dans la forêt pour sauter, des choses comme ça. Et Jean-Luc connaissait quelques spots, et donc on a roulé un peu avec lui. Puis pareil, il était déjà impliqué, tu vois, avec Motobécane, qui n'était pas encore MBK. Il était déjà, c'était en quelque sorte un champion, quoi, tu vois, parce qu'il a été champion du monde en 82, je crois, et de race. Et donc lui, il nous emmenait sur certains spots, sur certains trucs. C'est comme ça que ça m'a ouvert un peu plus les champs de possibles avec le BMX.
Donc c'était un peu lui ton mentor, on peut dire ça comme ça, ou bien...
Un petit peu lui, un petit peu Franck. Oui, voilà, après j'ai commencé à rencontrer des gens. Et le truc qui s'est fait assez rapidement, c'est que à cette époque-là, Jean-Luc faisait les essais pour Bicross Magazine, tu vois, les essais des vélos. Il y avait un nouveau vélo qui sortait, etc. Et donc, ce qui s'est fait, c'est qu'une fois, il m'a dit, écoute, José, moi j'ai un essai à faire, mais je pourrais pas. Donc, j'ai donné ton nom, et si toi, tu veux bien le faire. Et donc, j'ai fait comme ça un essai pour Bicross Magazine, l'essai d'un vélo. Et ensuite, j'en ai fait quelques-uns pour Bicross Magazine. Donc, à partir de là, avec les gens de Bicross Magazine, on bougeait un peu sur certaines pistes et j'ai découvert quelques trucs comme ça. Et ce qui était bizarre, c'est que j'ai jamais fait de race, mais les essais de vélo, on les faisait quasiment tout le temps sur des pistes de race. Donc, moi, j'essayais de sauter des doubles ou des choses comme ça. Et des fois, on allait sur des banks parce qu'il y avait des endroits pas loin de chez Jean-Luc, justement, où il y avait des banks et on essayait de s'entraîner un petit peu à faire des airs, des choses comme ça, ce que je faisais déjà un peu Jean-Luc. Et donc, on apprenait un peu avec lui et sur des skateparks aussi, comme autour de Paris, il y avait le skatepark de Villepinte, tu vois, qui était
Oui.
un des plus anciens. Donc, on allait sur des endroits comme ça et la plupart du temps avec mon frère. Et voilà, on essayait de rouler un peu comme ça, comme on pouvait.
Et il y avait, c'était juste toi et ton frère, ou il y avait un peu un crew de plusieurs personnes?
Non, au début, c'était avec mon frère. Des fois, on se retrouvait donc avec Jean-Luc. On se retrouvait avec. Il y avait des gars pas loin de chez moi qui essayaient de commencer un petit peu, mais pas vraiment. Et en fait, on essayait de bouger, mon frère et moi, et on allait rencontrer des gens un peu partout avec Franck aussi. On bougeait et on essayait de trouver des endroits et des trucs pour rouler. Et c'était pas facile parce que tu vois, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, c'est facile de trouver un spot ou quoi que ce
Oui.
soit. À cette époque-là, c'était l'enfer. Il y avait un tel qui avait dit que là-bas, il y aurait peut-être un truc. Donc, des fois, on se faisait des 20, 30 km en BMX, hein, pour essayer de
Ouais.
trouver un endroit. Ou alors, moi, je crois que j'avais une moto à l'époque, qui traînait mon frère en vélo pendant des bornes et des bornes, trouver des spots, quoi. On a fait
La
pas
bonne
mal de
époque.
trucs.
Ouais.
Ouais.
Ouais, la bonne époque. Avant les permis de conduire, de voiture, et avant
Ouais, avant tout
Internet, oui,
ça.
avant l'info, avant tout ça, c'était
Ouais.
différent. Ta rencontre avec Adolphe, c'est un peu plus tard, et la
Ouais,
création des Mad Dogs.
c'est un peu plus tard parce que, tu vois, donc à la suite de tout ça, il y a eu cette première compétition qui s'appelait le Super Freestyle au
Carole?
circuit Carole, à côté de Paris, où moi je suis arrivé avec mon frère, on est arrivé là, on avait entendu parler de ce truc, et je suis arrivé là en touriste, mon frère, on s'est dit, bon, bah, viens, on va aller voir ce truc-là. Et donc moi j'avais à cette époque-là mon GT, mon frère avait un autre vélo, je sais pas ce qu'il avait. On a été à cette compétition et là on était un peu époustouflés parce que voilà, il y avait un team, quasiment un team pro, qui c'était le team number one avec des gens de Beaune, de cette région-là où est né le BMX en France. Et donc ils avaient des tenues, ils avaient des beaux vélos, alors il y avait un tremplin, ils sautaient par-dessus une voiture, tu vois. Alors moi j'ai dit, est-ce que nous on a le droit d'essayer? Ils disaient non, 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 c'est que le team number one, etc. Et finalement, il y a eu la compétition et on a fait cette compétition qui était un peu de tout, tu vois. Il y avait du saut avec des tremplins, il y avait un banc, il y avait on pouvait faire aussi des figures au sol, si vous voulez, il y avait du bunny hop, il y avait pas mal de choses. Et finalement, cette compétition, moi j'ai gagné. Mon frère a fini troisième ou quatrième, un truc comme ça, je crois. Et à la suite de ça, il y a le Sylvain Billon, donc, qui s'occupait du team Motobécane à l'époque, qui s'occupait de Jean-Luc, qui est venu me voir et qui m'a dit, moi, j'ai envie de te prendre dans le team, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé petit à petit. Et là, il n'y avait pas de Mad Dogs. J'étais tout seul, en fait. Et donc,
Et
dans
c'est
le team.
84 ça, c'est
Ouais.
1984, c'est le
Ouais.
premier, c'est ça.
Et ouais. Et donc, je me rappelle avoir été chez Motobécane à l'époque et repartir avec un vélo. J'étais comme un fou. Je suis reparti avec un vélo qu'on m'avait donné. Et très peu de temps après, on m'a contacté pour faire une tournée pour la promotion du film Le Gang des BMX.
Oui.
J'étais tout seul avec une attachée de presse qui présentait le film dans plusieurs villes en France. Et on a fait une tournée comme ça. Et donc, moi, le film était présenté en soirée. Et moi, dans l'après-midi, je faisais des démonstrations sur des places ou sur des plages quand c'était en bord de mer. Mais tout seul. Pendant, je ne sais pas, des démonstrations de 20-25 minutes tout seul avec
Et
un répertoire d'une dizaine de tricks, peut-être.
sans
Donc,
speaker aussi, sans MC, sans...
sans rien du tout. Sans rien du tout. C'était vraiment tout à l'arrache. Mais voilà, j'ai fait ça et c'était un peu dur des fois parce que le soir, je ne savais pas trop quoi faire. Et autant te dire que le film Le Gang des BMX, j'ai dû le voir à peu près 15 fois, quoi.
Ouais.
Tous les
Et
soirs.
c'est ce premier vélo, c'est Motobécane, c'est un vélo de race en fait, c'est pas un vélo de free
Ouais, c'est ça. Ouais, ça n'existait pas. C'était un MX400, les tout premiers.
qui avait une espèce de plateforme dessus, non?
Ouais, en fait, c'est le top tube qui se dédoublait, qui
Ouais, c'est
faisait
ça.
un semblant de plateforme. Ça ne se dédoublait pas aussi large qu'un Romaster, par exemple, mais ça faisait un truc en V. Et voilà, moi, j'avais juste modifié en mettant un frein avant. Et voilà, j'ai essayé de faire des tricks avec ça, mais c'était pas top, quoi.
C'était du balancing. Qu'est-ce que tu faisais comme tricks, par
Je
exemple?
faisais du balancing, je faisais des pogos, je faisais des sauts, des bunny hop, des choses comme ça, des sauts avec des tremplins, atterrissage à plat, des choses comme ça. Et c'était voilà, c'était avec ce vélo, c'était pas super adapté, mais bon, moi j'étais content. Voilà, on m'avait donné un vélo. En plus pour cette tournée, le Gang des BMX, j'étais payé par jour. Je sais plus comment c'était à l'époque, mais c'était carrément pas mal, quoi.
T'avais quel âge à peu près à ce moment-là?
Oh, j'avais 19 ans ou 20 ans. Moi, j'ai commencé très tard, en fait.
Donc t'as
Je vais
commencé quand c'est
avoir.
arrivé. C'est pas que t'as commencé très tard, c'est que t'as
Oui,
commencé quand c'est
voilà.
arrivé.
Et puis, j'ai fait aussi, à cette époque-là, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait des pubs pour McDonald's aussi. Tu vois, c'était l'époque où McDonald's réouvrait en France parce qu'ils avaient ouvert avant. Il y avait une fermeture parce que ce n'était pas au standard américain, je crois. Et donc, et quand ils sont réouverts, il y a eu le premier McDonald's qui a ouvert à Paris. Et donc, et pareil, j'ai été. Mais pareil, c'était un truc à l'arrache. Ils avaient une sorte de vélo estampillé McDonald's, tu vois, ou un truc très
Jaune.
badia. Ouais, rouge et jaune, ouais.
Rouge et jaune, ouais.
J'avais prévu le coup, donc je suis arrivé avec ma potence et mon guidon, parce que je sais que c'était là le point faible. Et je suis arrivé là-bas, ils ne savaient pas. Et ils disaient, bah, sautez en l'air, tu vois, comme ça, sans rien. Et je dis, non, on ne peut pas, il faut un tremplin ou quelque chose. Et donc, ils ont sorti des boîtes de poudre avec laquelle ils font les milkshakes. Ils en ont mis deux. J'ai trouvé une planche et devant le McDonald's, je faisais des sauts comme ça, mais à l'arrache, et j'ai pu en faire trois ou quatre avant que la fourche se torde complètement. Et de ça,
Extraordinaire.
ils ont fait un poster qui était distribué dans les McDonald's et aussi dans les magasins de jeans parce que c'était sponsorisé par Lee Cooper aussi. Ça, c'est un truc un peu
T'étais déjà
improbable.
la star. T'étais déjà la star. Ouais,
Non.
c'est un peu improbable, mais à l'époque aussi, c'est le boom du BMX. Il y a eu aussi E.T., le film E.T.,
Oui, voilà,
donc
il
tout le
y
monde
avait des
avait un
choses comme ça.
BMX.
Ouais, et puis tu voyais les pubs à la télé, les pubs Hollywood, chewing-gum, ça, c'est un
Oui.
truc qui a frappé tout le monde. Et pour revenir à ce que tu disais, j'étais pas la star, mais je crois que surtout, j'étais le seul qui était disponible et sur Paris. Donc, c'était plus pratique s'il fallait, parce que je pense qu'à cette époque-là, moi, j'en savais rien, hein, mais il devait y avoir peut-être des gars plus compétents que moi ou meilleurs à plein de choses, hein. Mais ils étaient peut-être pas à Paris, tu vois, et donc ils se cassaient pas la tête les gens pour essayer de les trouver ou quoi. Donc moi j'étais là, c'était pratique, on m'avait fait faire une tournée pour le film, des choses comme ça, donc on me connaissait un petit peu. Les gens de Bicross Magazine me connaissaient parce que je faisais quelques essais pour eux, et voilà, je pense que c'était l'opportunité plus qu'autre chose, hein.
Et puis il y a eu en 84, il y a aussi eu le premier Bercy avec
Ouais,
Fiola et Osborne.
ouais,
Toi, t'étais là, je me rappelle pas quand les premières
ouais.
démos
Non,
ont
j'ai.
commencé.
Non, j'étais pas, je faisais pas partie du show à Bercy, mais j'étais en fait quand RL et Eddie Fiola sont arrivés à Paris, j'étais avec eux et on a fait des photos sur plusieurs endroits autour de Bercy et voilà, ils m'ont demandé où est-ce que les gens de l'organisation de Bercy. On est où est-ce qu'on pourrait les emmener, etc. Et donc, je les ai emmenés au skatepark où moi j'allais de temps en temps, c'est-à-dire à Villepinte. Donc, j'ai emmené Eddie Fiola et RL là-bas. Et bon, RL n'a pas vraiment roulé parce que le parc était vraiment difficile à rouler, ce parc. Tu vois, il y avait une courbe très sèche avec de la. Il y avait peut-être un pied de verre, quelque chose comme ça. C'était vraiment pas facile. Des côtés, il n'y avait pas de transition. C'était vraiment des trucs assez secs. Nous, on avait l'habitude. RL n'a pas voulu rouler, donc il faisait du flat un peu. J'en ai fait un peu avec lui. Et puis, par contre, Eddie roulait avec mon frère un peu, parce que mon frère, je l'avais emmené aussi. Eddie roulait pas mal là-bas, il s'est adapté au truc. C'était un peu ghetto, tu vois, mais il s'y adapté. Ouais. Et c'était cool. Et donc, j'étais avec eux, j'étais dans les coulisses aussi à Bercy, quand ils ont fait leur show, mais moi, j'en faisais pas partie.
Okay. Mais ça, c'était cool. Petite, ouais. Petite anecdote avec Villepinte, je ne l'ai pas encore sorti, mais j'ai fait une interview avec Mike Van der Hoedera. Je ne sais pas si tu te souviens.
Bien sûr, je
c'était mon, lui, c'était mon héros quand j'ai commencé en Belgique. Et donc, il a parlé de vous, de toi et Michel, et qu'il avait passé du temps chez vous. Et il a parlé de Villepinte aussi. Il avait été, voilà, il y a plein de petites anecdotes comme ça, donc c'était sympa. Et, mais voilà, donc, mais ça a dû être bien, pour revenir à ce que tu disais, ça devait être bien cool de pouvoir rouler avec Fiola et avec Osborne. Ça devait bien motiver.
Oui, mais ça m'impressionnait surtout, quoi, tu vois, parce que voilà, je les avais vus que dans les magazines. De rouler avec eux, c'était un peu bizarre. Mais ça s'est fait assez naturellement. Moi, je suis pas de nature à être fan, tu vois, de quelqu'un. Et comme j'ai du mal aussi à comprendre qu'on soit fan de. Comme à certains moments, je ne vais pas dire dans ma carrière, parce que je ne peux même pas appeler ça une carrière, mais dans mes moments où, voilà, où je roulais. Il y avait des gens qui avaient un peu cette attitude de fan, tu vois, et ça, j'ai toujours eu un petit peu de mal avec ça, mais bon, après, je peux comprendre, hein, l'engouement, etc. Je l'ai eu moi-même, mais...
Et puis, ils cultivaient cette image aussi un petit peu, les Américains. Ils avaient les tenues, les machins, ils regardaient. Et puis, c'était l'époque où il y avait 5 pros, ou entre 5 et 10 pros, ils étaient un peu des dieux.
Non, mais Eddie, tu vois, il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. RL, il a toujours été très pro, parce que en fait, je les ai revus très rapidement, parce que l'année d'après, on est parti aux États-Unis, tu vois, en 85. C'était la première fois où j'allais aux États-Unis. Et on a été faire des sessions, tu vois, chez Wizard Publication. Ils faisaient BMX Action, Freestyling. Je sais même pas s'il y avait Freestyling encore. Si, il y avait peut-être Freestyling déjà. Il y avait un énorme half-pipe devant, tu vois, où RL roulait.
La Tour of Love.
Ouais. Et moi, il m'a impressionné là-dessus, parce que c'est la première fois que je voyais un mec à cette époque-là. Il faisait des airs des deux côtés. Il sortait en régular et en oppo, pareil. Et j'avais vu personne faire ça. Mais Eddie Fiola, il faisait pas ça. Non. Et Rel Osborne, il sortait pareil des deux côtés. Tu vois, il faisait des footplants sur le côté du mur, du half pipe. Moi, j'ai vu là-bas des trucs vraiment cool. Quoi. Cette première année, ça a été vraiment. Et en fait, ce voyage, on avait fait avec tout le team MBK. Là, mon frère avait intégré le team parce que moi, j'avais dit, mon frère, il est bon, il fait du vélo avec moi. Est-ce qu'il pourrait rentrer dans le team avec moi? Comme ça, je ne serais pas tout seul pour faire des démos, par exemple. Mmh. Et finalement, il a été pris chez MBK rapidement. Il n'y avait pas encore Adolphe à cette époque-là. Et donc, on était parti avec mon frère MBK. Nous avait payé 3 semaines en Californie, je crois. Et on est parti avec tout le team MBK qui, on avait atterri à Vancouver, tu vois, parce qu'il y avait les championnats du monde. Chez toi. Parce qu'il y avait les championnats du monde à Whistler.
Oui.
Et donc, mon frère et moi, on n'avait rien à voir avec les championnats du monde de Whistler parce qu'on ne faisait pas de race. Donc, on avait pris l'avion quand même avec tout le team MBK. Et plus quelques autres, tu vois, il y avait Xavier Rodouet, etc., qui n'était pas chez MBK, mais qui allait au championnat du monde quand même. On était tous ensemble. Et arrivé à Vancouver, bah, eux, ils sont partis à Whistler directement. Et nous, on est restés 3 jours à Vancouver. Moi, je ne connaissais rien. On était là-bas, je trouvais ça cool, mais on était un peu perdus. Et on avait, pour descendre en Californie, MBK n'avait rien trouvé de mieux qu'au lieu de nous prendre un billet d'avion, nous avait pris un pass Greyhound. On a fait 33 heures de bus Vancouver-Los Angeles.
C'est loin, je l'ai déjà fait.
Ah ouais.
Et en fait, en voiture, je l'ai fait en voiture, mais pas.
Ouais. Et on est resté donc après, je crois presque 15 jours ou 3 semaines à Los Angeles, et on est remonté, mais le vol du retour repartait de Vancouver, donc on a refait les 33 heures, c'était même plus au retour, je crois que c'était 34 ou 35, pour reprendre l'avion à Vancouver. C'était un putain de truc, quoi.
Ouais, j'imagine bien. Cool. Et donc, à ce moment-là, vous faites cette tournée un peu aux US avec Motobécane. Ça s'appelait déjà MBK ou pas?
Je crois pas. Je crois que
c'est 85.
Ou peut-être, je sais pas. Là, franchement, je sais pas exactement.
Ok. À l'époque, vous êtes salarié ou bien vous êtes salarié?
Moi, j'étais salarié, ouais, à partir de, je dirais, 85 ou 86. Mais ouais, on est salarié, ouais. On est salarié plus parce que tu vois, en 85, là déjà, donc après cette tournée aux US, On est revenu, on a fait des gros shows, tu vois, comme le salon du cycle à Paris. On a fait Bercy tout de suite après. On a fait le Bercy à partir de 85 et plusieurs autres. Et donc là, on est salarié et on a aussi des primes, tu vois, des primes un peu des primes comme des primes de parution, des primes de résultats, des primes de démos en fonction des trucs qu'on fait. Donc, ouais, non, ça va. On gagnait de l'argent à cette époque-là, quoi. En tout cas, moi d'abord, et ensuite mon frère et moi, et après Adolphe bah, je te raconterai la rencontre d'Adolphe, quoi.
Mais c'est bien, ça veut dire que t'es vraiment un professionnel au sens strict du terme, donc
Oui.
tu es payé pour faire du vélo.
Oui, j'étais le premier, en fait, le premier pro en France. Parce que en reste, il y avait un peu l'équivalent qui était Claude Villemot, mais Claude n'avait pas de salaire, je crois. Je ne sais pas s'il m'écoute, il confirmera ou pas. Mais je crois que Claude n'avait pas de salaire. Je crois que Xavier Rodois, qui était les vrais deux stars en race, n'avait pas de salaire, je crois. Et nous, on a eu un salaire. Et on a eu un salaire et des primes, etc. Donc, ouais, quelque part, en tout cas, en freestyle, c'est sûr, j'étais le premier pro en France, quoi.
Et tu roulais sur quoi à l'époque?
Je roulais, alors, en 80, on a eu un peu de tout, tu vois, chez MBK, parce qu'on avait comme tu dois le savoir, on a eu des cadres US rebadgés MBK. Après, on a eu les proto MBK qui ont été faits, que tu as dû voir aussi. Mais c'était compliqué, ça, parce que moi, j'allais à l'usine MBK qui était à Saint-Quentin, dans le nord de la France. On essayait de tester des choses avec le bureau d'études, mais ils n'étaient pas tout le temps super réactifs ou ils ne comprenaient peut-être pas. Moi, on me donnait des cadres à tester et j'avais une technique imparable. Je faisais des rebonds sur la roue avant et très vite, j'ouvrais des colonnes de direction ou des choses comme ça.
Aïe,
Donc, on
ouais.
demandait des choses, mais ils n'avaient pas peut-être pas le. Je ne sais pas s'ils avaient le savoir-faire ou peut-être le matériel qu'il fallait exactement. Donc, c'est pour ça qu'en attendant d'avoir un cadre proto qui a marché après, qui était pas mal, hein. Qu'on a fait un peu comme on a voulu. Bah avant ça, on avait un peu des cadres, tu vois, rebadgés, que personne n'était dupe. Bon, voilà, c'était pour pouvoir rouler sur quelque chose sans casser systématiquement.
Oui,
On
moi
avait
je me
fait.
rappelle de photos ou d'articles dans Bicross Magazine. Il y avait des photos de démos ou de contests avec toi et les Mad Dogs. Et alors tu te dis, mais c'est quoi ce cadre? Et tu regardais, ah, mais c'est un Redline ou c'est un Skyway ou c'est un.
Ah oui, et mon frère roulait, je crois, qu'avec un street beat. Pendant un moment, moi j'ai roulé pas mal de temps avec un RL22. Et Adolphe, je ne sais pas ce qu'il avait. Mais ouais, on a roulé avec des cadres comme ça. Parce qu'on avait fait aussi une pub pour la télé, tu vois, une pub MBK pour la télé, qui s'appelait les White contre les Chromes, parce qu'ils sortaient pour Noël, je crois, un vélo tout blanc et un vélo tout chromé.
Je me
Et
rappelle.
quand on a fait cette pub, qu'on a été tourné dans le nord de la France aussi à Étretat, il y avait l'usine MBK qui avait dépêché un semi-remorque avec des vélos. Et un tremplin, etc. Et le tremplin, c'était quand même une small rampe, tu vois, qui faisait peut-être 1,50 m de haut. Et donc, on sautait ça, il fallait sauter par-dessus des personnes à la fin. Et on atterrissait à plat. Et mon frère sautait, et à chaque saut, il cassait un vélo. Donc, à chaque fois, on mettait un nouveau vélo. C'était un peu compliqué. Mais donc, à la suite de ça, tu vois, on ne voulait pas prendre des risques parce que notre niveau augmentait un petit peu, puis il fallait quand même du matos qui tienne, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a roulé un peu avec des cadres US rebadgés jusqu'à avoir le proto MBK qui était pas mal et qui a tenu finalement.
Mais qui est pas sorti, qui a pas été
Ouais,
commercialisé en fait.
mais ouais, c'est dommage parce que moi, je me suis vraiment battu pour ça. Puis voilà, ce vélo, il est classe. Les gens, quand ils le voyaient, ils le trouvaient cool. Il était fait avec les géométries comme on voulait à peu près. Ils l'ont jamais sorti en série et moi, on m'a dit que ça revenait trop cher parce qu'il faut savoir que ce cadre-là, je sais pas combien il y en a eu de fait, il y en a eu moins de 10 en tout cas. Je crois. Et moi, on me disait qu'à l'époque, ça coûtait à faire 4 500 francs. Rapporté à ce que ça fait aujourd'hui, ça devrait être horriblement cher, quoi.
C'est
Donc,
celui en fait le. Ouais, pardon, vas-y.
ça a jamais été fait, quoi.
Ce proto qui a été restauré par Bones pour
Ouais, voilà, c'est celui-là.
l'expo béton hurlant. Ouais.
Ouais, c'est celui-là, qui est maintenant chez Pépé à Limoges dans son showroom.
Ouais. Voilà, on drop un peu des noms, c'est bien. Tous ces gens. C'est cool. Ok, donc là, on est 85, 86, ça roule bien. On n'a pas encore rencontré Adolphe, mais est-ce qu'il y a eu un contest au circuit Carole en 85? Ça, je me rappelle pas. Je sais qu'il y a 84 et 86.
En 85, je sais pas. Je sais qu'il y en a eu un autre auquel j'ai participé où j'étais là pour le coup, j'étais pas bien classé. Enfin, je vais être peut-être 3 ou 4 ou j'en sais rien, je me rappelle plus. Mais ouais, il y en a eu un autre où, mais il faisait un sale temps, tu vois, et ça se passait
Ça,
sous
c'est
un.
86. C'est
Ah, d'accord.
86.
C'était sous une tente. Alors,
Ouais.
85, peut-être qu'il n'y en a pas eu, ou alors j'y suis pas allé, je ne m'en rappelle pas en tout cas. Et je m'en suis rappelé de celui-là parce que David en a parlé.
Ouais. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux d'ailleurs, mais ouais.
Ouais, bah, c'est ce que je dois faire aussi, tu verras
Ouais.
après. Mais ouais, c'est, je me rappelle de ça. C'est sous une tente, il y avait du vent, il y avait de la pluie. Mais c'était ouais, c'était un peu bizarre, quoi.
C'était étroit, la rampe était glissante, il y avait, enfin
Carrément,
ouais,
il
il y
n'y
a eu
avait
plein
pas
de
de place, tu vois, c'était pas vraiment plat, c'était pas vraiment nickel le sol. Mais bon, des choses comme ça, j'en ai vu des tonnes et des tonnes, si tu savais.
J'imagine bien, j'imagine bien. Revenons un peu aux démos de Bercy. Enfin, tu as fait plein de démos partout. Mais Bercy, c'est quand même particulier parce que ce sont des grosses démos. Et puis, il y a toujours les riders US qui sont là. Donc, tu as pu un peu rouler avec eux chaque année. En 85, c'est Wilkerson et Sigur.
Wilkerson, qui était un peu distant, tu vois, au début, mais qui regardait ce que je faisais, tu vois. Et même à l'époque, je me rappelle qu'il m'avait pompé un ou deux trucs très, très vite, sans se poser de questions, c'est normal, quoi, tu vois, comme ça. Mais Wilkerson était comme ça. Rich Sigur, j'ai pas vraiment eu d'échange avec lui, mais ouais, on roulait, pas vraiment en même temps qu'eux, mais des fois, ouais, on était ensemble, mais ils étaient quand même un peu distants. On était, eux, c'était les stars, hein, et puis nous, voilà, on était là un peu comme des faire-valoir, quoi, un petit peu. C'est ce qu'on ressentait en tout cas.
Et tu as eu cette même impression avec l'année d'après avec Martin et Mike Dominguez ou pas?
C'était pas pareil, c'était pas pareil. Et je sais pas si j'avais déjà rencontré Martin ou j'avais vu après, peut-être, si j'avais rencontré en Californie après qu'on y avait, on était retourné. Mais en tout cas, le truc qui m'avait bluffé, c'est qu'il faut savoir qu'avant le show Bercy Bicross, la semaine d'avant, il y avait une patinoire en fait sur l'emplacement où ils mettent la terre, où ils mettent le truc et tout. Mike Dominguez était déjà arrivé avec Martin et donc il fallait aller voir l'endroit et il y avait encore la patinoire. Et donc ils avaient mis un banc qui devait faire 1,50 m de large et ils avaient mis un rouleau de moquette sur la glace qui faisait exactement la largeur du banc sur la piste d'élan. C'était la piste d'élan, tu vois, il y avait, je sais pas, peut-être 20, 25 mètres ou 30 mètres et le banc au bout, tout ça sur de la glace, hein. Et je me rappelle de Mike D qui arrive avec ses petites chaussures de ville, en fait, qu'il avait des petites chaussures cirées avec des lanières, je me rappelle très bien. Tu sais, le style des Américains est bien placé pour connaître ça, j'imagine.
Oui, tout à
Le
fait.
goût de la mode américaine. Hein.
Surtout à
Et
cette
donc,
époque-là.
donc, il arrive avec ça, avec un jean délavé neige aussi, tu vois, très classe. Et franchement, sans casque, comme ça, sur la glace, 1,50 m de large, il arrive et pédale comme un ouf. Et il sort, je sais pas moi, 1,50 m, 2 m comme ça, sans avoir vu la rampe ou quoi que ce soit. Et peu de temps après, je crois qu'il fait un 540, comme ça, normal. Et là, on était ici. Et là, on s'est dit, ah ouais, ah d'accord, bon, je vois. Ou alors, il voulait vraiment, vraiment montrer que ça valait le coup d'y avoir payé le voyage, qu'ils ne s'étaient pas trompés, quoi, les gens. Franchement, c'était ça m'a toujours marqué,
Ah,
d'avoir
il
vu
était
ça.
impressionnant, il était vraiment
Ah ouais, c'est clair.
impressionnant.
Il était doué, quoi. J'ai vu à Pipeline, j'ai vu un peu. Dans plein d'endroits faciles, quoi.
Ah, et on fait, faisons un petit parenthèse, là, tu as été à Upland alors, au Pipeline, ça devait être impressionnant
J'y
ça.
suis allé en 85, j'y suis allé en 86 aussi. Je crois qu'on n'est que deux avec Jean Sansois à avoir la carte membership Upland Pipeline Skatepark. C'était cool, c'était vraiment cool, tu vois, le pipeball, c'était vraiment spécial à rouler, tu vois, il y avait des bosses et tout, il n'y avait pas vraiment y avait pas de coping, c'était vraiment les skateparks à l'ancienne. Mais ce qu'on voit rarement dans des photos ou des vidéos, c'est que tu as le pipeball avec le full pipe là, et derrière ça, tu as aussi le combi pool, et encore
Oui.
derrière, tu as des petits bols. Et on roulait aussi sur ces petits bols où tu peux les connecter les uns aux autres. On a roulé pas mal là-dedans. On a essayé de rouler dans le combi pool, mais c'était injouable. Franchement, il y avait.
C'est
Quand
carré ça, et c'était la verte était fo
y avait
folle.
quasiment 1 mètre de verre, plus le coping, la margelle, comme les piscines américaines. Mais j'ai vu Mike D rouler là-dedans, c'était impressionnant. Vraiment impressionnant. Et puis bon, j'ai vu Fiola arriver à Pipeline. T'as l'impression que c'est Elvis, quoi. Elvis qui arrive, tu vois, avec le gros 4x4 ou alors une Porsche, tu vois, avec le vélo posé dessus. La vraie star, quoi. C'était marrant. C'était marrant.
Cool ça. Revenons en France alors. Maintenant, tu dois avoir rencontré Adolphe.
Ouais, en fait, c'est mon frère qui le rencontre parce que pas loin de chez nous, dans deux villes plus loin, tu vois, il y avait un terrain de motocross. Et en fait, le long de ce terrain de motocross, il y avait une route. Et de la route, tu pouvais aller sur le terrain de motocross par une sorte de. Ça faisait comme un saut. Et mon frère allait rouler là-bas avec son BMX. Et en fait, il prenait la route à fond en descente. et il sautait pour rentrer, pour arriver sur le terrain d'autocross, et il sautait super haut. Il sautait, je crois, c'était des sauts à plat. Hein. Mon frère, ça a été le champion du monde du saut à plat, sans réception, il éclate tout le monde. Genre 3 mètres, saut à plat, pas de problème. Il faisait qu'il allait là-bas, il sautait très haut. Tu vois, j'ai des photos où il est peut-être 2 mètres 50, 3 mètres, réception à plat. Et donc Adolphe, qui roulait en motocross à cette époque-là, roulait sur ce terrain parce qu'il habitait pas loin. Et donc il s'est arrêté et il a vu mon frère. Il dit, il était scié parce qu'il voyait faire des sauts en vélo, elle est quasiment plus haut que les motos. Et donc à partir de là, Adolphe, tu vois, il a discuté un peu avec mon frère et mon frère lui dit, oui, ben nous on fait du BMX. Mon frère, il est sponsorisé, moi aussi, voilà, viens nous voir si tu veux. Et donc Adolphe venait le soir chez nous, enfin devant là où on s'entraînait, je m'entraînais en bas de chez moi. Et je me rappelle, il n'avait pas de vélo, il restait à regarder, mais pendant des heures. Des heures, il regardait, il observait. Et puis après, finalement, il a eu un vélo, il a commencé à s'entraîner, et très vite, il arrivait à faire pas mal de trucs. Et à cette époque-là, moi, je buvais beaucoup de coca. Et donc, il s'est mis à boire beaucoup de coca, parce qu'il s'est dit, il y arrive, c'est parce qu'il boit beaucoup de coca.
Donc, ça doit être le secret.
Voilà. Et donc, il s'entraînait, il faisait. Bon, par contre, il a fait que du flat. Il avait fait une rampe. Chez lui, mais il galérait un petit peu en rampe, donc finalement il s'est concentré sur le flat et très vite il arrivait à faire tout ce que je faisais et même plus, tu vois, et il faisait plus de trucs. Il devenait meilleur que moi en flat pendant quelques temps, parce que moi j'ai toujours essayé de faire un peu de tout. La rampe, j'ai eu en fait une fois à Villepinte, je suis tombé fort, donc la rampe ça m'a calmé un petit peu, et du coup j'ai fait du flat en quelque sorte un peu par défaut. J'aimais bien le flat, mais mon premier truc c'est vraiment faire des sauts, faire des airs, des choses comme ça. Et j'ai fait du flat après parce que voilà, c'est plus facile de faire du flat, tu peux en faire n'importe où. Et voilà, j'avais pris cette chute qui m'avait calmé aussi. Mais Adolphe, on l'a rencontré comme ça. Et après, pareil, j'ai dit à MBGA, parce que c'était moi l'interlocuteur en gros. Hein. Mon frère, frère ne parle pas, jamais. Et Adolphe, pas trop non plus. Donc j'étais obligé de faire ça, quoi. Et donc j'ai dit, voilà, est-ce que Adolphe pourrait rentrer dans le team? Ce serait pas mal, on serait une équipe de trois. Pour faire les démos et tout, voilà, ça pourrait alterner, on pourrait faire des démos peut-être plus longues, des choses comme ça, et finalement, voilà, il est rentré dans le team MBK comme ça, ouais.
D'ailleurs, tu parles de ça, j'ai fait quelques recherches avant qu'on discute. Vous aviez, Michel et toi, une interview dans Bicross Magazine en 87, tu parles d'Adolphe et tu dis qu'il s'entraînait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que toi, en fait. C'était plutôt quelques heures, enfin, 8-10 heures par semaine, et que lui, c'était genre 6-8 heures par jour, à l'époque.
Ouais, c'est vrai. Adolphe s'entraînait beaucoup. Il voulait absolument y arriver, quoi. Et moi, même si on était pro hein, déjà à l'époque, hein, etc. Moi, j'ai toujours pris ça un peu. Je vais pas dire en dilettante, mais c'était quand même pour m'amuser, tu vois, pour m'amuser, pour essayer de découvrir des trucs. Si une figure, elle était un petit peu difficile, qu'il fallait s'acharner vraiment longtemps, ça me saoulait un peu, quoi. Alors D'accord. qu'Adolphe, il était capable de s'entraîner. Il avait une sorte d'esplanade pas loin de chez lui. Et je sais qu'il passait des heures et des heures. Et des fois, on allait s'entraîner. J'allais m'entraîner un peu en flat avec lui. Mais des fois, il restait aussi tout seul, très longtemps à s'entraîner. Ce que moi, je ne faisais pas vraiment. Et mon frère non plus, d'ailleurs. Mon frère est vraiment, il s'entraînait quasiment jamais. Il s'amusait un peu, mais il s'entraînait jamais. Mon frère était plutôt doué, en fait. Il arrivait à un contest. Il n'avait pas roulé depuis des lustres. Et puis, il pouvait gagner le contest comme ça. Et puis repartir tout de suite après, sans dire quoi que ce soit à personne. C'est un peu spécial.
Ouais. Ok. Donc là, vous êtes à trois, team MBK avec Adolphe et Michel. Il y a quand même quelques teams en France. Maintenant, on est au milieu des années 80. Oui. Là, il y a le Blix, il y a les gars de GT, Stéphane Curodo, etc. Il y a les gars de Paris, il y a les Spin Rats. Et puis, il y a aussi...
Crazy Ducks.
Les Crazy Ducks, donc ça tourne quand même beaucoup, ça commence à être populaire. Mais vous êtes en fait sur tous les gros trucs. Vous avez fait les tournées Super Tour aussi avec les Américains, là, sur l'été. Ouais. Et puis vous êtes chaque fois, évidemment, parce que MBK est quand même sponsor.
Souvent titre sponsor, donc il nous place à chaque fois. Et des fois, c'est. Comment te dire, des fois, c'est presque gênant parce que moi, il y a des tournées où peut-être que j'ai même pas envie d'aller ou peut-être que je me dis, c'est bon, on nous a vu là, on nous a vu là-bas. Voilà, mais bon, MBK tenait absolument à ce qu'on soit à chaque truc. Et puis voilà, on était payés, donc on n'avait pas trop notre mot à dire. Mais finalement, voilà, des fois, c'était un peu pressant, tu vois. C'était un peu difficile par moment parce qu'il fallait être partout, il fallait tout faire. Dans ces années-là, 85, 86, 87, On a vraiment beaucoup, beaucoup tourné, beaucoup voyagé, fait pas mal de choses. Après, ce n'était pas désagréable, hein, la plupart du temps. Mais des fois, c'était un peu. On a fait des trucs qui sont un peu chiants, quoi, aussi. Et parce qu'il fallait faire beaucoup.
Vous êtes allé dans les dom-toms aussi, ou toi seulement,
ouais, ouais.
Il me semble.
Moi, je suis allé, moi, la première fois seulement avec, avec le team MBK, ça devait être en 85 à la Martinique, je crois. Mmh. Et ensuite, avec Adolphe et mon frère, on a été à La Réunion en 87, où là, c'était vraiment c'était le gros truc. C'était sponsor par Yop. C'était vraiment, on arrivait à La Réunion, c'était l'émeute quand on est arrivé, avec des banques qu'ils avaient complètement raté, tu vois. Ils avaient fait, on avait envoyé des plans pourtant à l'avance et tout, hein, mais ils avaient fait un banque où c'était oververt. Ça revenait comme un croissant de lune. Tu vois, ils pensaient que pour revenir dans la rampe, il fallait que ça soit comme ça. Donc, on leur a dit non, là, on ne peut pas faire. Et on a fait le premier soir, je crois qu'on est arrivé, il y a eu une démo de flat. Et dans la nuit, ils ont refait les banks comme on leur avait dit. Et le lendemain, c'était prêt. Et donc là, on a pu faire une vraie démo. Et c'était, je sais pas, il y avait un endroit qui n'était pas très, très grand, mais il y avait, je sais pas, peut-être entre 3 et 5 000 personnes, quoi. Les gens qui montaient sur les arbres, sur les trucs partout pour voir le show, c'est quand on avait nos tenues un peu fluo, là, tu sais.
Oui, je vois bien. Oui, jaune ça, et. Je me rappelle plus, vert jaune, noir.
Avec du rose et du noir, ouais. J'avais filé mon pantalon comme ça, Claude Villemont.
Tiens, puisque tu parles de ces grosses démos, de ces gros événements où il y a quand même plein, plein de monde, tu as été affecté par le stress? C'est quelque chose qui te...
Bah, comme tout le monde, tu vois, mais c'est vraiment un truc... je l'ai, le stress, tu vois, quand tu arrives à Bercy, il y a 15 000 personnes et que tu as la poursuite qui est sur toi, tu n'es pas à l'aise. Mais ça m'a jamais, comment je dirais, ça m'a jamais handicapé ou freiné. J'essaye de faire au mieux, d'essayer de faire, de pas y penser, de pas, de me concentrer sur ce que je vais faire. Je capte plus ce qu'il y a autour, je crois. Je m'en occupe plus en tout cas, et j'essaie d'être sur mon truc. Et en tout cas, quand j'ai écouté ce que disait David, c'est exactement la même chose. S'il y a de la musique, je ne l'entends pas. S'il y a des cris, je les entends pas. Je fais ce que je fais. Et quand c'est fini, là, tu relâches et là, tu entends ce qui se passe et tu vis le moment. Tu vis les gens qui crient, tu vis la musique, les lumières, peut-être, les choses comme ça. Mais quand tu es dedans, et ça m'a fait la même chose quand j'ai fait des compétitions, c'est la même chose. J'essaye d'être dans ton truc et tu captes pas trop ce qui se passe. Et j'essaye de pas regarder, de pas choper un regard ou un truc parce que j'ai peur que ça m'enlève de mon truc.
Justement, les compétitions, là, on a parlé un petit peu des compétitions au circuit Carole où tu avais gagné en 84. Et puis, mais il y a eu d'autres séries. Il y a eu les championnats de France, il y a eu la FNA, il y a eu NADA à la fin. Tu faisais beaucoup de compètes ?
J'en faisais, oui, j'en faisais pas mal. Ouais. Je faisais peut-être pas toutes les compètes, mais le championnat de France, je l'ai fait puisque je me rappelle pas bien, mais tu vois, comme je savais qu'il fallait que j'en parle, et j'ai regardé un petit peu, mais je crois que j'ai été 4 fois champion de France ou 5 fois, peut-être. J'ai fait après des compétitions internationales, j'en ai fait en Angleterre à une époque, je sais plus vraiment quand, mais j'ai fait quelques compétitions en Angleterre. Je sais plus qu'est-ce que c'était comme série, les UKBFA peut-être, je sais pas. Et j'ai fait les seuls championnats du monde que j'ai fait, c'est ceux qui étaient en France, à Saint-Ouen.
En France, à Saint-Ouen, en 89, ouais. Ouais. C'était quelque chose qui était un peu poussé par tes sponsors, de dire tu dois faire les compétitions ou pas?
Oui, il y avait un peu de ça. On nous faisait comprendre qu'il fallait être là et qu'il fallait aussi gagner. Parce que, voilà, je sais pas si on nous l'a dit comme ça ouvertement, mais en gros... Vous êtes payé, donc il faut du résultat. Les autres ne sont pas payés, donc il y avait des choses comme ça. J'ai même lu dans les magazines, des rides UK, tu vois, il y avait des commentaires sur nous qui étaient pas super cool de la part des Anglais, parce qu'ils étaient comme un peu jaloux qu'il y ait des pros en France. Il y avait des Anglais qui étaient nettement meilleurs que nous, hein, il n'y a pas photo à l'époque, et qui nous n'étaient pas payés. Donc ils disaient, ouais, le team MBK, eux, ils sont payés, ils ont des salaires, machin, et voilà, des riders comme, je sais pas, les noms de l'époque, peut-être Craig Campbell ou Carlo Griggs ou Neil Ruffell, parce que Andy Ruffell, lui, il était payé et bien payé depuis le début. Il savait négocier des contrats et c'était un vrai pro. Mais il y en avait d'autres, tu vois, qui étaient meilleurs que nous, hein, qui n'étaient pas payés. Donc, du coup, ça, il y avait des petites railleries comme ça. Et j'imagine aussi, je ne sais pas, que peut-être dans les teams français, il y avait des choses comme ça aussi, j'en sais rien.
Après nous, c'est autre chose. C'est-à-dire que vous présentez pas un spectacle, mais vous avez une cohésion, vous êtes à trois, vous faites de la promotion, donc c'est pas tout à fait la même chose que quelqu'un qui dit ouais, je vais juste gagner des contests.
Oui, et puis surtout, c'est pas quelque chose qui était une demande de ma part ou de personne d'autre, de quelqu'un d'autre. On m'a dit, voilà, il y a beaucoup de démos, on avait des primes de démos, maintenant vous allez être salarié. Donc, en gros, on appartenait à MBK et il fallait faire la promo d'MBK par des démos, par ceci, par cela. Donc, on n'avait pas un certain nombre de démos qui correspondaient à notre salaire, mais quelque chose un peu comme ça. Donc, il fallait, c'est ce qu'on nous a dit, voilà. Vous avez un salaire, donc il faut représenter la marque et ça veut dire aller peut-être dans une concession MBK, je ne sais pas où, au fin fond de la France pour faire une démo devant le magasin. Ça veut dire aussi, j'ai fait des choses comme tu vois, une réunion de dirigeants MBK ou de choses comme ça ou de gros concessionnaires MBK dans un building tout en haut d'une tour à Paris et tu rentres dans une salle de réunion et tu fais la démo comme ça au milieu des tables en cercle, tu vois, des choses comme ça. Parce qu'il fallait faire des choses comme ça. J'ai fait pas mal de choses un peu bizarres.
Ouais, ben, comme on a tous un peu fait aussi. Ouais, j'imagine vous plus que d'autres. On parlait des comtesses, alors t'avais un peu des gens qui étaient tes rivaux, des gens qui étaient.
Oui, on a parlé de David. David, par exemple, David, c'était mon rival puisque je faisais du flat à l'époque et que lui faisait du flat aussi. Donc voilà, c'était un grand rival. Jean aussi, puisque Jean faisait du flat aussi. Moi, je faisais que du flat à cette époque-là. Donc mes rivaux, c'était les compétiteurs qui étaient en flat contre moi. Donc oui, David, Jean, en flat, il y avait d'autres. Je ne me rappelle pas de tout le monde, mais peut-être David, ça a peut-être été lui, un des plus grands rivaux, si on peut dire, même si j'aime pas trop ça, quoi, parce que pour moi, c'était toujours un délire et s'amuser, quoi.
Il y avait une bonne ambiance entre les gars de différentes.
Je sais pas, il y a eu des guéguerres, tu vois, et une guéguerre un peu marrante, tu vois, dans les teams de Paris, en tout cas, entre les Spinrads, les Mad Dogs et tous ces dons d'animaux, là. Mais bon, c'était assez gentil, parce que les Spinrads, tu vois, on se charriait, etc. Mais moi, j'ai commencé avec Franck Pitou, qui était dans les Spinrads, et puis j'ai souvent roulé avec lui. Après, j'ai fait beaucoup de snowscoot avec lui aussi. Donc, il n'y avait pas de galère. Après, le Blic, c'est Jean que j'ai connu en premier. Et donc, ça a toujours été avec Jean. Avec David, peut-être qu'on avait moins de contacts, mais il n'y a pas eu d'animosité, ou en tout cas, je ne me rappelle pas. J'espère que j'ai froissé personne, en tout cas.
Non, non, c'est pas parce que j'ai entendu quelque chose, je dis ça, je demande ça comme question simplement,
Ouais.
par
Il y
curiosité.
avait, il y a toujours une rivalité, tu vois, mais il n'y a jamais eu de mauvaise rivalité, je pense, en tout cas. Puis ça reste du BMX, hein, voilà, il
Oui,
faut
bien
garder
sûr.
ça. Moi,
Tout
j'ai
à
toujours
fait.
gardé ça en tête. À la fin de la journée, voilà, on fait du petit vélo, quoi. Il faut se rappeler de ça, et comme ça, tout le monde a les pieds sur terre, quoi, moi, je trouve, hein.
Parlons un peu des tricks, parce que toi, tu as vu toute l'évolution en ayant commencé très tôt aussi, comme David et
Ouais.
comme d'autres, où il y avait pas de frein avant, un frein avant, potence frein inversé, les premiers pegs, etc. Tu as senti que c'était compliqué l'évolution de rester à la page?
Bah, c'était pas évident, mais dans la mesure où on avait accès à des magazines, à des choses comme ça, quelques premières vidéos, tu vois, des choses comme ça, on arrivait à voir un peu ce qui se passait. Moi, le truc qui m'a fait halluciner, c'est quand à Bercy, j'ai vu Rick Moliterno faire Hangpipe. Et ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On peut rouler sur la roue avant comme ça. Et donc, je me rappelle que le soir même, avec Adolphe, on s'entraînait et donc on freinait, tu vois. On freinait de l'avant pour essayer de lever le vélo, tu vois. Et on s'est mis des boîtes et des boîtes et des boîtes. Et finalement, j'ai réussi à faire Hangpipe assez rapidement. Quand je roulais, je m'aidais un petit peu du frein, mais après, plus du tout. Et ça, c'était un super accomplissement pour moi parce que c'était un peu le début des Rolling Tricks, tu vois. Et Hangpipe, pour moi, c'était vraiment le truc. C'est vraiment une figure qui m'a plu. Et d'ailleurs, c'est la seule figure que je suis encore capable de faire aujourd'hui, tu vois, avec un BMX. En flat, je sais faire
C'est
Hangpipe.
toujours d'actualité, les gars le font en plein en street aussi, là, en
Ouais, j'ai
montant
vu
sur des
ça, ouais.
murets,
C'est
etc. C'est
super,
bien.
j'ai vu ça.
C'est probablement une des, si pas ma figure préférée, Hang Five. Vraiment. D'ailleurs, j'ai appelé le podcast Hang Five Podcast.
Ouais, mais ça, c'est cool, tu vois.
Là, les Rolling Tricks sont arrivés, ça a devenu compliqué parce qu'il y a des gens qui poussaient à parler de Alexis tout au début, là, qui était
Ouais,
aussi un des
ouais.
premiers à passer des gros rolling en France.
Ouais, ouais.
Ça devenait vraiment compliqué. Mais en 89, là, au championnat du monde à Saint-Ouen, il me semble que
Ouais.
tu as gagné en pro, non?
Ouais, j'ai gagné en pro. Après, il y avait des. Je pense qu'il y avait des mecs meilleurs que moi, mais qui n'étaient peut-être pas en pro. Tu vois, il y avait Albert Rotet, tu vois qui c'est.
Ouais.
Lui qui était très fort. Franchement, quand on faisait les practices, lui, il calmait tout le monde. Et moi, j'avais une routine pas trop mal, mais bon, quand j'ai revu mon run là, tu vois, de championnat du monde, J'ai pas envie de regarder. Mais peut-être que ce jour-là, j'ai gagné en pro parce que j'ai fait moins pire que les autres. Parce que j'ai vu aussi d'autres runs de pro où c'était pas top top non plus. Et voilà, j'ai peut-être gagné grâce à ça. Genre ça, parce que moi, quand je vois mon run, il est pas ouf, quoi, tu vois. Et puis je mets des pieds quand même. J'essaie quelques trucs un peu nouveaux, mais pas plus que ça. Mais bon, j'ai gagné, quoi.
C'est bien, oui, c'est ça, c'est bien. D'ailleurs, il y avait à cette époque-là, nous on était venus de Bruxelles aussi pour le chemin du monde, mais il y a eu aussi une interview dans le mini-journal de Patrice Dovet où tu as quelques secondes où il parle de combien de temps on s'entraîne, etc. Et puis il y avait les Anglais aussi, il y avait John Yule et Carlo Griggs, ouais, où tu disais que je me rappelle très bien, tu disais voilà, moi je m'entraîne tout le temps à faire le même run, la même routine de X minutes. Parce que c'est comme ça toutes les compétitions, mais c'est aussi l'époque où tu commences un peu à virer street, dans mon souvenir.
Carrément. Moi, cette compétition en 89, c'est les championnats du monde. Je me suis dit, c'est à côté de chez moi, et même aujourd'hui, tu vois, j'habite à côté de ce gymnase qui est encore debout, mais je pense qu'il est désaffecté ou quoi. Et quand je passe devant, mes enfants me disent, ah papa, c'est là que tu as été champion du monde, parce que c'est pas loin de chez nous, et c'est le destin qui m'a fait revenir ici. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, à cette époque-là, moi, je fais du street plutôt déjà. Tu fais les articles qu'il y avait eu dans Bicross Magazine, où on fait du street dans la cité des Juliottes, etc., des wall rides. Ouais. Moi, je suis plutôt là-dedans. Et bon, là, il y a les championnats du monde, donc je me dis, bon, quand même, il faut y aller. Et puis, je faisais déjà un petit peu de rampe à l'époque, un peu plus, mais je n'allais pas m'inscrire en rampe. Et je sais qu'on était venus aux entraînements. J'avais vu les entraînements, je me dis, bon, bah, ok, je vais faire la compète. Et mon frère avait fait les entraînements en rampe, et finalement, il n'a pas fait... Il est reparti, il n'a pas voulu faire le contest. Et moi, j'étais là, il y avait des potes, on roulait au practice, on s'amusait bien. Et c'était cool. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, je fais la compète. Et voilà, mais très peu de temps après ça, déjà avant. Et déjà après, moi, j'ai arrêté le flat quasiment directement après ce contest, hein, je crois. Et j'en ai plus vraiment fait beaucoup. Et là, je faisais quasiment que du street, de la mini-rampe aussi. Et un peu de... C'est pas du trail, mais un peu des sauts un peu comme ça aussi, quoi.
Ouais, il y avait des photos, je me rappelle de toi, qui m'avaient impressionné en decade drop-in, en mini-rampe.
Ouais, c'était, je faisais des choses comme ça, tu vois, parce que la mini-rampe, j'essayais de mixer en un peu les tricks que j'avais en flat et de mixer ça avec une mini-rampe. Je faisais pas plein de trucs comme ça. Je faisais aussi à l'époque, je faisais des fly-out hang five et je roulais, je redroppais comme ça, où je montais en nose peak et Switzerland squeaker pour reculer en faisant des whips aussi, comme des pinky squeaks, et redropper dans la rampe, des choses comme ça, ou des pédales picker drop-in, ou des decades drop-in, ou plein de choses comme ça, ouais.
C'était une époque où il y a eu beaucoup de recherches, un peu, il n'y avait rien qui était écrit, donc on pouvait un peu tout faire, et cette période, c'est un peu comme Mark Eaton qui a mélangé le flat et le street, c'est un des premiers dans les Dorking Videos. Et un truc sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il me semble qu'à cette époque-là, tu es sur un Arrow, tu n'es plus sur un MBK. Ouais. Donc il y a eu un moment où vous avez switché.
Ouais, on n'était plus chez MBK, en fait, ça s'est fini MBK, il y avait même une double page sur Bicross Magazine où on est torse nu parce qu'on n'a pas de maillot, on n'a pas de sponsor, et on tend la main comme si c'était une idée de je ne sais plus qui chez Bicross Mag pour faire genre, voilà, les Mad Dogs n'ont plus sponsor, donc ils demandent un sponsor. Et en fait, à cette époque-là, on était déjà chez Arrow via Vélo 2000, donc on a roulé avec des Arrow, mais à l'époque des champions du monde à Saint-Ouen, j'étais déjà plus chez Vélo 2000. Je roulais le team Vélo 2000. C'était Philippe Pereira, Valérie Botetem. Je crois que c'était ça. Hein. Et donc, moi, j'étais en fait, je n'avais pas de sponsor de vélo. J'avais un sponsor de fringues qui s'appelait Fly. Un ami à moi, qui est un ami de longue date, qui s'appelle Alain Ungerer. Hein, j'ai envie de le citer parce qu'il est cool. Il me suit toujours. Il me donne toujours du matos un peu pour ce que je fais. Donc, il y avait une marque de fringues de motocross qui s'appelait Fly. Et donc, nous, on était sponsor par Fly. Et je crois que c'est tout. Parce qu'on avait peut-être je sais pas si on avait un deal d'autres choses, mais pas grand-chose en tout cas. Et quand j'ai roulé au championnat du monde, c'était un Arrow Master. Il n'y avait pas marqué Arrow dessus. Il y avait des stickers Fly un peu partout, quoi. Fly et peut-être Live the Beach aussi, parce que j'étais sponsor par Live the Beach. Juste avant ou à ce moment-là, quoi.
Mais ça, c'était un peu des sponsors matos ou fringues, mais c'était plus salarié ou plus de primes.
Non, voilà, on n'avait plus de salaire, mais on faisait encore en 89, par exemple, on faisait des grosses démos en Turquie. On partait 15 jours, 3 semaines en Turquie et pour faire des démos là-bas dans des expositions universelles. On a fait une fois à Izmir et une fois à Istanbul, donc deux séjours en Turquie. Et là, on était payés et bien payés pour ces démos-là. Et là, Adolphe n'était déjà plus avec nous. C'était avec Woody, avec Sébastien Bonneau. Ça, c'était cool, ouais. Mais on n'avait pas un salaire. On avait pas un salaire.
T'avais dû trouver un boulot ou retrouver un boulot.
Ouais, à cette époque-là, ben, on vivait encore des démos un peu parce qu'on en faisait pas mal. Et justement, Jean-Luc Ferré, que j'ai connu à mes débuts, ben, je me suis dit, voilà, est-ce que tu veux bien être notre manager? Et du coup, il était notre manager. Et lui, nous trouvait des démos, des trucs. Et des fois, il faisait speaker aussi, par exemple, en Turquie. Il a fait speaker pour nos démos. Et voilà, organiser un peu les voyages, trouver des sponsors, Like the Beach. Moi, j'avais dit, écoute, Like the Beach, c'est trop cool comme marque de fringues. Tu veux pas essayer de nous trouver ça? Et donc, il nous a négocié ça et c'était cool. On avait des sponsors comme, voilà, Like the Beach. On a eu Converse. On a eu des sponsors un peu à part dans le monde du BMX, quoi.
Et donc là, on est début des années 90. On te perd un peu de vue. Enfin, en tout cas, moi, peut-être, parce que j'étais moins, ouais, où il n'y avait plus.
Ouais, parce qu'en fait, 90, je roulais encore. Je faisais que du street. Je crois que du street et de la mini. Et je sais que mon dernier contest, c'est un contest de mini ramp à Spine en 91, début 91, je crois que j'ai gagné. Après ça, j'ai arrêté. Je faisais plus de BMX, quasiment plus, parce que je faisais déjà du supercross en moto. Mmh. Ça m'avait intéressé, donc je faisais supercross en moto, parce que ce qui m'intéressait, c'est des sauts, vraiment faire des sauts et des choses comme ça. Et donc, j'ai fait ça pendant un moment, et c'était l'époque aussi où j'ai commencé à faire du snow scoot à la montagne, donc avec Franck Pétou, parce que j'étais dans son team, et c'est lui qui avait créé la première marque de snow scoot. Et donc, mmh, je faisais beaucoup du supercross toute l'année et du snow scoot l'hiver. Et en snow scoot, ça me prenait quand même pas mal de temps, donc je pense qu'à cette époque-là, je travaillais pas encore. Parce que j'essayais de m'en sortir un peu comme ça avec le snow scoot, etc. On faisait des choses, on faisait des tournées, on allait au Japon, on allait aux États-Unis, on a été au Gravity Games, qui était un peu comme les X Games.
C'est un gros truc, ça, le snow scoot, alors. Ça a vraiment été.
Ouais. Et puis j'ai fait des compétitions aussi en snow scoot. J'ai été champion du monde de snow scoot en billard en 2002 aussi. Et puis voilà, ça fait cette parenthèse un petit peu. Et tu vois, à un moment, ce qui m'a ramené vers le BMX, c'est que les snow scoots, pour un moment, étaient fabriqués par Sun. Et moi, j'avais demandé à Sun si je pouvais pas avoir un BMX quand même, tu vois, pour en avoir un, parce que voilà, j'ai de la moto, mais j'aime bien quand même. Et donc là, j'ai eu un BMX et j'ai commencé à rouler un petit peu, etc., avec un BMX. Ça commençait à me replaire un peu. Et puis là, je suis retombé dans le BMX et je me suis après acheté un Hoffman, je crois, et j'ai pris mon Hoffman, c'est un Hoffman Dibo, tu vois, et il y avait quatre pegs, il y avait un frein avant, un frein arrière, donc je me suis dit, tiens, je vais faire un peu de flat. J'ai fait un peu de flat, et puis, mais bon, ça m'a saoulé rapidement, du coup, après, j'ai fait du street encore, et j'ai fait du trail. Et là, j'ai voulu faire des sauts, du trail, et là, il y avait des trails, donc j'ai essayé de commencer à faire du trail, quoi.
Ça, c'est un peu début des années 2000, il me semble, ou milieu des années 2000,
bon,
dans ces eaux-là, ou avant?
Ouais, peut-être avant déjà, ouais.
Et fin des années 90.
Ouais, 91, 92 par là. Et là, j'avais plus de revenus, donc il a fallu que je travaille. Et donc là, j'ai été pendant très longtemps, j'ai été moniteur auto et moto pour dans des auto-écoles. Donc j'ai fait ça pas mal de temps et ça me laissait quand même un peu de temps pour rouler.
Ok, cool. Toujours sur la région parisienne alors.
Ouais, donc après ça, j'ai arrêté le motocross, je crois, ça devait être début des années 2000. Et là, j'ai refait du BMX à fond. Je faisais que du BMX tout le temps. Je bossais, je bossais à cette époque-là et je faisais que du BMX, mais vraiment beaucoup et même beaucoup plus que quand j'étais pro, quand j'étais sponsorisé, etc. Je faisais vraiment beaucoup de BMX et là, c'est vraiment... C'est comme si le fait que ça soit juste une envie, une passion, ça me motivait beaucoup plus pour rouler que quand j'étais pro, finalement.
C'est ce que plein de gens disent, en fait, que c'est pas nécessairement un chèque ou un salaire qui te, ouais, qui te motive, mais c'est plutôt la passion. C'est mieux, ouais, comme ça, d'ailleurs. Est-ce que c'est aussi un peu l'époque du projet Quiet Resistance, ou ça, c'est encore plus tard?
Non, c'est beaucoup plus tard, ça. À cette époque-là, moi, j'ai changé de boulot et j'étais... Je faisais de la location de voitures de luxe pendant presque 10 ans. À cette époque-là, il y a eu aussi Cabal. Je ne sais pas si tu,
oui,
te rappelles.
Oui, 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 oui.
Donc, Cabal, donc c'est un pote à moi, Franck Lutz, tu vois, d'Alsace, qui avait créé cette marque et qui voulait faire qui fait une marque qui commençait d'abord par des t-shirts et des fringues et qui voulait faire, parce que lui, il a fait du BMX aussi, qui voulait faire un cadre de BMX. Et on a commencé à bosser là-dessus, après avec un autre ami à lui. Et eux, ils étaient en Alsace, moi, j'étais à Paris, donc c'était pas évident tout le temps. Mais moi, j'essayais de m'occuper un peu de dessiner cette partie BMX et de trouver des riders, etc., qui pourraient mettre en avant cette marque. Et j'en avais trouvé, etc. Mais bon, finalement, on a fait des pièces, on a fait des cadres vraiment révolutionnaires pour l'époque, des trucs que personne n'avait fait et qui ont été repris par plein de grandes marques depuis, hein. Et on a fait des pièces vraiment en avance, moi, je trouve, sur l'époque, que ce soit au niveau des matériaux, au niveau du design, de solutions techniques, de choses comme ça. Mais finalement, cette marque, elle a capoté assez rapidement parce que je crois que les deux Alsaciens, ils ne se sont pas super entendus entre eux. Et moi, j'étais un peu loin de tout ça et j'avais déjà des riders, j'avais un team vraiment top, quoi, tu vois. Il y avait Arthur Dietrich qui était qui pouvait être dans le team, il y avait Dimitri Ivanov, tu vois, et Maxime Charbonneau. Et Maxime Charbonneau qui était très jeune, vraiment des tops, quoi, qui sont encore des tops aujourd'hui. Mais voilà, finalement, ça n'a pas vu le jour, Cabal, et c'est dommage, c'était vraiment pas mal, quoi.
Il y avait d'autres marques de vélo aussi à l'époque déjà. Il y avait Superstar en France.
Ouais. Mais Superstar, c'est une approche encore différente. Mais oui, il y avait Superstar, il y avait 20, tu vois, il y avait 20 aussi. 20, c'était déjà plus une grosse marque, moi je dirais, avec plus de moyens, plus d'infrastructures. Donc Cabal, c'était vraiment des trucs artisanaux. Mais je sais qu'on avait essayé de faire des choses bien, tu vois. Moi, les premiers cadres, c'était avec du chromo US que j'avais demandé à Jean-Luc Ferré, qui travaillait chez Arrow USA, qui travaille toujours d'ailleurs. Et de voir si on pouvait avoir des tubes pour faire comme ça des cadres avec du vrai chromo US, des choses comme ça, et de faire des trucs vraiment de qualité. Mais ouais, je sais qu'il y avait d'autres marques aussi, il y avait 20, donc comme tu as dit, Superstar, et ça, je connaissais pas vraiment tout ce qu'ils faisaient, quoi.
On est au début des années 2000, tu roules à fond, tu vas à des événements, tu fais des compètes ou pas?
Pas vraiment, non, 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 je fais pas de compète, je crois. Je vais à des jams. J'ai des jams de trail, des jams d'un peu de tout, tu vois. Et je regarde avec plaisir, je compète des trucs, mais je participe pas. Moi, ce que j'aime, c'est rouler avec des potes, découvrir des nouveaux spots. Ça, je l'ai fait beaucoup et vraiment beaucoup plus qu'avant. Alors qu'avant, voilà, on était payé pour voyager, etc. Et là, non. Mais j'ai vraiment essayé de trouver. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus excitant que le feeling d'arriver sur un nouveau spot et d'essayer de voir ce que tu peux faire. Je trouve ça extraordinaire. Et encore aujourd'hui, tu vois, j'allais rouler en VTT avec des potes là sur un spot qu'on connaissait pas bien. Voilà, il y avait des sauts, des trucs, savoir gérer la vitesse, les trucs. Et ça, c'est toujours excitant, même à un âge avancé comme le mien. Mais voilà, c'est des trucs. Demain, je vais rouler sur un trail BMX que je connais pas. Pareil, je suis tout fou parce que, tu vois, bon, déjà, ça va être compliqué parce que le BMX, j'en fais plus vraiment beaucoup là en ce moment. Et à chaque fois que je remonte dessus, c'est pas facile. Mais voilà, ça, c'est un feeling extraordinaire. La première fois que je suis allé au skatepark de Ruben Alcantara, voilà, c'est
À
extraordinaire.
Malaga, ouais, c'est
Ouais,
assez
voilà.
impressionnant.
La première fois que je suis allé à House Park, à Austin par exemple, ou à Nine Street, trail mythique comme ça, ou à Sheepies, ou des endroits comme ça, quand tu arrives la première fois, c'est extraordinaire. Moi, ça me fait toujours ça en tout cas.
Tu suis un peu le free actuel, les compètes, les résultats, ou pas les résultats spécialement, mais les figures, le truc, comment ça évolue, c'est presque
Pas trop.
gymnastique dans les contests de
Ouais.
parc, là, oui.
Ouais, pas vraiment, non, c'est pas mon truc, quoi. Franchement, non. Je préfère regarder, tu vois, quand je regarde des vidéos de BMX, j'en regarde moins maintenant, mais quand j'aime bien regarder des vidéos de road trip, de choses comme ça, comme des vidéos T1. Ouais, je disais, non, les compètes, les trucs comme ça, c'est pas vraiment mon délire. Je regarde pas. J'ai essayé une ou deux fois de regarder le Fizz. Je trouve ça boring, grave, quoi. Tu vois, c'est un peu toujours pareil, c'est beaucoup de rotations, beaucoup de whip, de buzz, de choses comme ça. Et je préfère regarder, quand je regarde encore des vidéos de BMX, qui m'arrivent moins souvent maintenant, regarder des vidéos de riding, de road trip, de lifestyle, tu vois, des choses comme les vidéos de Terrible One ou des choses comme ça. Et ça me donne envie de rouler. Et il y a d'autres vidéos, je regarde une vidéo d'un contest, ça me donne pas envie de rouler, carrément pas, quoi. Ça m'ennuie même.
Il y en a quand même quelques-unes qui sont assez bien faites, je trouve. Ça fait un peu retour aux sources. Et depuis quelques années maintenant, il y a cette tournée Vans
Ouais,
Skatepark en fait en
la
béton
Vans Pro Cup, ouais, ça je regarde.
où
Ça
ils
je
mettent
regarde tout le temps.
vraiment l'accent. Ils mettent l'accent sur le
Ouais.
style et le flow
Oui,
plutôt que les figures.
ah oui.
D'ailleurs, tu as des gars comme Daniel Sandoval qui est Monsieur Whip et Monsieur Buzz qui termine toujours pas dans les 10 premiers parce
Ouais,
qu'il
bien
n'a pas de
sûr. Ouais.
flow.
Et puis tu as des mecs vraiment stylés comme Sergio, qui est mon pote Sergio, tu vois, Sergio Laios. Et lui, voilà, lui, il fait du résultat à des compétitions comme ça qu'il ne ferait pas au fils, par exemple. Tu vois. Et, parce que voilà, il a des leads cool, il a un riding stylé, et puis voilà, puis c'est un mec vraiment en or, donc tant mieux que ça soit lui.
Ouais, c'est très bien. Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit il y a quelques minutes. Là, tu dis que tu fais plus trop de BMX et je me demandais si c'était un peu dû à un thème dont on n'a pas parlé, qui sont les blessures. Est-ce que tu t'es blessé souvent en vélo?
Carrément, c'est carrément ça. Et c'est, tu savais à quel point c'est frustrant pour moi, t'as même pas idée. Et des fois, ça m'empêche de dormir la nuit. Tu te rends compte? Moi, le BMX, pour moi, depuis cette reprise, tu vois, dont on a parlé. J'avais plus de sponsor, plus rien et tout. C'était vraiment ma vie, mon truc. Tu vois, beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus que l'époque MBK et toutes ces choses-là. En fait, je me suis blessé beaucoup dans les 10 dernières années, là. En fait, en 2014, c'était, je crois, que je suis parti vivre dans le sud-ouest, Bayonne. Et pour des raisons personnelles, je suis parti. Et là, j'habitais à Bayonne. Il y avait un trail très connu à Anglet dans le sud de la. Dans le sud-ouest, qui était à 10 minutes de chez moi. J'ai commencé à rouler en trail là-bas beaucoup, avec des potes là-bas qui sont super cool et tout. Et là, je me suis blessé une fois. Une grosse ligne, vraiment une grosse ligne qu'on ne roulait pas beaucoup, où il fallait arriver vite et des éjects très raides, très hauts. Et j'ai overshooté une première bosse et je me suis assommé sur l'éjecte de la deuxième. Donc, une perte de connaissance, là, un trauma, machin, etc. Pas bien. Bon, c'est passé, j'ai continué. Et je roulais aussi beaucoup dans des parcs en béton qu'il y a dans le nord de l'Espagne, parce que là-bas, on était à un quart d'heure de l'Espagne. Et moi je suis d'origine espagnole, donc j'ai plein de potes en Espagne, là-bas c'est facile. Et donc pareil, dans un parc sur un gros hip, j'avais l'habitude de rouler. Et c'était à cette époque-là, il y avait Bones qui était venu, il y avait des amis de Paris qui étaient venus dans le coin. Et donc on a été rouler dans ce parc-là, et peut-être que, je sais pas, je me rappelle plus moi, mais peut-être que j'ai voulu trop bien faire ou aller trop vite, parce que c'était un parc que je connaissais vraiment, c'était mon local quoi. Donc, j'ai peut-être été trop vite et je me suis écrasé. J'ai trop tiré sur un air, sur un hip. J'ai vraiment piqué comme ça sur le plat. J'avais même pas touché la courbe et encore les mains sur le guidon et tout. Là, je me suis smatché, je me suis fracturé beaucoup de doses dans le visage comme ça. Donc, vraiment, deuxième grosse chute avec perte de connaissance, etc. Je me réveille à l'hôpital à chaque fois. Et encore une troisième, encore donc, pendant c'est presque 5 années où j'ai vécu là-bas. Là c'était la pire, donc il y avait un pump track qui avait été construit enrobé là, tu vois, en dur, pas loin de chez nous. Et donc avec un pote du trail là-bas, mon pote Fred, on s'est dit tiens, on va aller rouler ce pump track, on va commencer. Et j'ai fait quelque chose que je fais jamais, c'est-à-dire que j'ai essayé le pump track comme ça, comme c'est tout petit, tu vois, ces petites bosses qui s'enroulent. J'ai pas mis de protection, j'ai pas mis de casque, et d'habitude je ne fais jamais ça. Et là je sais pas pourquoi, je me suis dit bon, c'est un pump track, j'en sais rien. J'ai fait, et ça c'est mon pote qui me le raconte hein, parce que je me rappelle plus. Donc là, j'ai roulé, j'ai fait un tour, deuxième tour. Et au deuxième tour, il y avait deux virages comme ça qui étaient un peu parallèles. Et je me suis dit, tiens, il y a moyen de passer d'un virage à l'autre en air. Et donc, je suis arrivé très vite. Et apparemment, la roue avant a slidé. Et ça m'a projeté en l'air. Et là, je suis tombé. Je me suis, pareil, refracturé tout un côté du crâne. Je me suis cassé ça 6 côtes. Je me suis perforé le poumon. Et donc là, j'ai passé 12 jours en soins intensifs. Pneumothorax, pronostic vital engagé, etc. Toutes ces blessures, ça, plus plein d'autres. J'ai été opéré pendant cette époque aussi à Bayonne. J'ai une cheville qui était fragile depuis longtemps. Et donc là, j'ai une cheville, ma cheville droite, elle est complètement bloquée. C'est une arthrodèse. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Donc, j'ai plus d'articulation de la cheville. Ma cheville ne bouge plus. J'ai que l'avant-pied qui bouge. Et moi, après ça, je me suis dit, bah, plus jamais je pourrais faire de vélo. Mais finalement, j'arrive à faire du vélo. Donc, c'est cool. Et j'ai aussi mes deux poignets. Et c'est ce qui me fait souffrir le plus en ce moment, c'est mon poignet gauche. J'ai mes deux poignets où on m'a enlevé la première rangée du carpe sur mes deux poignets. Donc, j'ai plus de flex beaucoup sur mes poignets et j'ai surtout plus de force. C'est-à-dire, le matin, par exemple, je ne peux pas tenir une tasse avec du café. Ça peut tomber. Donc, des choses comme ça. Donc, tenir un guidon, c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai réussi, donc je suis assez content. Mais je suis obligé de faire des exercices. J'ai eu des problèmes de dos aussi, pas mal de choses. Et puis, avec tous ces traumas crâniens, j'ai perdu aussi un peu, tu vois, le... Je ne peux plus faire des flips, par exemple. Je faisais encore des backflips il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais 5-6 ans, des choses comme ça. J'en ai encore refait, tu vois, mais je ne peux plus faire ça parce que la tête me tourne après, je ne retrouve pas l'équilibre. Même si je pose un flip, tu vois, je vais rouler, je vais tomber après. Donc, il y a des choses que je ne peux plus faire. Et en fait, on m'a diagnostiqué un handicap à 80%. Donc, c'est un peu... Et bon, on m'a dit que c'est fini le vélo, quoi. Quand je me fais aussi opérer de la cheville, j'ai passé plusieurs mois dans un fauteuil roulant, après des béquilles, etc. Pour moi, c'est fini. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans le VTT, parce que je me suis dit, bon, de toute façon, je ne pourrais plus jamais faire de BMX. Donc, je vais m'acheter un VTT pour aller me promener dans la forêt gentiment. Puis finalement.
Ouais, j'ai vu gentiment faire des gros gaps.
Ouais, parce que finalement, je me suis dit, tiens, avec le VTT, bah, j'arrive à sauter. Et donc, si je me suis dit, bah, si j'arrive à sauter avec le VTT, peut-être j'arrive à sauter avec le BMX. Et du coup, bah, j'ai refait du BMX et puis j'ai refait du VTT. Et voilà, ça a continué comme ça pour l'instant, tant mieux.
Oui, tant mieux, tant mieux. C'est vrai que au niveau blessure, on pensait pas, en tout cas tout au début. Toi, c'était, t'avais ça, mais on faisait pas d'étirements, on n'avait pas de préparation physique.
Ah, mais
on
jamais, j'ai jamais fait ça. Pourtant, j'ai passé beaucoup de temps, je dirais une quinzaine de fois en Californie, parce que j'allais souvent chez mon pote Christophe Lévesque, un ami. Et donc, j'étais souvent chez lui, voilà. Et lui, je voyais ce qu'il faisait à l'époque où il était encore pro et qu'il gagnait tout. Il faisait beaucoup de préparation, plein de trucs. Il me disait, vas-y, fais avec moi, il faut se mettre là contre le mur, on fait ci, on fait ça. Et je faisais jamais rien. J'ai jamais rien fait. Et même encore maintenant, je suis quand même vieux maintenant. Il faudrait que je fasse des préparations, des choses, mais je fais rien. J'arrive pas à me motiver à faire des étirements, à faire des trucs. Je fais un peu, j'essaie de travailler un peu pour les choses qui me gênent, tu vois, le poignet. Le dos, j'ai une épaule là qui est complètement sortie, tu vois, j'ai cassé 3 fois aussi. Mais bon, j'arrive à faire avec tout ce que j'ai eu comme blessure, parce que j'en ai eu beaucoup, et surtout dernièrement. Moi, ce qui me gêne encore, c'est le poignet. Je trouve une solution pour ce poignet, pour pouvoir essayer de continuer à rouler, parce que si le jour où je peux plus rouler, là, c'est un drame dans ma vie.
C'est compliqué. Tu pourrais presque concurrencer Hoffman avec toutes les blessures et les.
Bon, Matt, il en a eu plus que moi, je pense. Mais ouais, non, j'en ai eu pas mal, et surtout dernièrement, c'est ce qui est bizarre, quoi. Étant plus jeune, quand je pratiquais peut-être plus régulièrement, en tout cas, ça veut dire que les démos, nous, c'était tous les week-ends, tu vois, les choses comme ça. Ben, je me suis pas cassé grand-chose finalement. Mais là, dernièrement, bon, après, c'est un peu plus engagé, tu roules plus vite, peut-être des choses comme ça, mais tu sautes
Oui,
plus haut.
c'est assez paradoxal. Au début de notre conversation, tu disais, ouais, j'avais essayé un peu la rampe, mais c'était pas mon truc, je me suis un peu planté, donc je me suis plutôt dirigé vers le flat, et maintenant c'est plutôt street, enfin c'était street, et puis trail, gros
Parce que
engagé.
c'est comme si c'était le manque que je voulais combler. Parce que moi, je voulais sauter avec un truc, quoi. Quand j'ai fait de la moto, j'ai voulu faire du supercross. J'ai pas voulu faire du motocross classique où tu vois des descentes, des montées. Je voulais des sauts, des sauts, des sauts, essayer de sauter plus haut, plus loin. Et donc, c'est pareil, dès que j'ai un guidon entre les mains, voilà, j'aime bien faire des sauts. En BMX, ça a été ça. En VTT, c'est ça maintenant. Voilà, pour l'instant. J'aimerais que ça dure encore un peu, je ne sais pas.
C'est bien, tu t'écouteras quand je le sortirai, enfin si tu veux, la discussion que j'ai eue avec Mike Van der Roodera, il dit un peu la même chose que toi, il dit ouais, moi ce qui me branchait bien c'était les sauts en BMX, ça, il dit je voudrais bien, il fait plus de vélo pour l'instant, mais il y repense, il dit ouais, le trail c'est vraiment, c'est ça, c'était ses débuts, c'est ça qu'il voulait faire, et voilà.
Le trail, c'est top parce que quand tu arrives à sauter une ligne de trail, si sans parler de tricks ou quoi que ce soit, hein, t'es propre. T'as quasiment pas d'impact, tu t'éjectes, t'es dans la réception, t'as pas d'impact, t'as rien du tout. Et ça, c'est vraiment un feeling vraiment cool. Après, c'est pas toujours, ça se passe pas toujours comme ça, bien entendu, hein, mais selon les lignes, c'est plus ou moins compliqué. Quand tu prends un hip, quand tu prends des choses comme ça, c'est pas toujours facile. Mais c'est un feeling, moi, je trouve, qui est incomparable.
Ouais,
Ça,
c'est vrai.
est-ce que je découvre maintenant aussi en VTT, parce que le VTT, tu vois, j'en fais sérieusement, ça fait un an, quoi. On va dire que ça fait un an que je fais du VTT régulièrement et je roule au moins une ou deux fois par semaine. Et pareil, tu vois, bah, c'est peut-être pas aussi propre qu'un run de trail en BMX, mais bon, tu as les suspensions qui compensent un peu, donc tu as moins d'impact. Et moi, c'est ça qui me gêne, tu vois, sur mes poignets, pareil, les impacts sur les poignets. Moi, je peux pas, si je fais une session BMX et que je vais taper. Avec un peu de l'avant, un peu de l'arrière, ou quoi, moi, les poignets, je peux plus bouger mon poignet pendant une semaine. Donc, c'est ça qui me gêne un petit peu. Mais bon, pour l'instant, ça va, j'ai quand même encore de la chance, j'arrive encore à rouler. Je vais avoir 56 ans dans 15 jours, quand
Bien, 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 bien. Ben, c'est bien. Justement,
Ouais.
c'était une aussi de mes questions. C'est quoi le futur de Zeoge? Je pense encore rouler longtemps. Je me suis
Ouais,
posé la
j'espère.
question pour moi aussi.
J'espère le plus longtemps possible. Ce qui est bien, c'est que quelque part, je suis un message d'espoir pour plein de gens. Parce qu'à chaque fois que je vais quelque part, c'est moi le plus vieux, tout le temps. Tout le temps, c'est moi le plus vieux quand je vais sur un trail, c'est moi le plus vieux quand je vais sur un skatepark, c'est moi le plus vieux quand je vais faire une session slopestyle ou freeride avec des jeunes dans la forêt sur des spots où il y a des sauts qui sont quand même balèzes. Et je roule avec des gamins qui ont 17, 18 ans, 20 ans. Il y en a plein qui. Et j'ai roulé une petite anecdote comme ça, tu vois, je roulais sur un spot où il y a des mecs comme ça, des jeunes. Et au bout de la troisième ou quatrième fois, il y en a qui me dit, mais en fait, toi, tu étais un champion de BMX, mon père, il te connaît. Il y en a plein qui m'ont dit ça, mais tu nous as pas dit que tu étais champion du monde. Mon père, il m'a dit que tu étais champion du monde et tout. Et en fait, voilà. je roule avec des mecs et c'est leurs parents qui me connaissent. C'est
Ouais,
marrant.
c'est rigolo. Ou alors t'arrives au skatepark avec les parents qui sont là et puis te disent: Ah, moi aussi je roulais avant, mais tu sais, maintenant j'ai 45 ans. Tu dis, Ah,
Ouais.
ouais,
Moi aussi, c'est ça. Et moi, j'ai 56 ans, mais enfin, je vais les avoir là. Mais voilà, j'ai envie de rouler. Et pour répondre à ta question, bah, j'ai envie de rouler le plus longtemps possible. Tant que l'envie, franchement, l'envie, elle est là. Elle est en moi d'aller trouver un nouveau spot, d'aller faire un road trip, d'aller faire n'importe quoi. Pourtant, j'ai une vie familiale quand même qui n'est pas facile, hein. J'ai une femme, j'ai quatre enfants. Mais voilà, elle est toujours ça. Là, tu vois, on va partir en vacances bientôt. Et depuis toujours, depuis, je vais dire, je sais pas, presque 15 ans. Mes vacances, c'est jamais innocent, les endroits où je vais. Je sais que, bon, voilà, on va chercher en priorité quand même un truc pour les enfants, pour qu'ils s'amusent, en quoi. Mais il faut qu'il y ait un spot à côté pour papa. Sinon, je ne peux pas aller à voilà, à la plage ou à la piscine et rien faire comme ça. Moi, il faut qu'il y ait un spot. Il faut que je sache que le soir, il y a la session trail, que le soir, il y a un skatepark en béton qui va bien à côté ou qu'il y a un spot. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Et voilà, j'aimerais bien que ça dure encore un peu. J'en sais rien. Je ne sais pas, c'est ma santé qui me le dira, mais. Mais l'envie, elle est là comme jamais. Franchement, si tu parlais avec ma femme, elle te dirait, mais c'est un obsédé du vélo. C'est incroyable, quoi. C'est presque maladif. Mais voilà,
C'est
je
très
peux pas
bien.
m'imaginer. Je peux pas m'imaginer. Je sais pas si c'est bien, parce que voilà, à l'âge que j'ai, voilà, avec des enfants et tout, c'est. Mais bon, je suis là pour mes enfants, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est vraiment le truc qui me tient vraiment, quoi.
Mais ça reste, ça permet de rester jeune dans la tête aussi. Tu vois, il y a beaucoup de gens qu'on voit
Ouais, je pense.
qui faisaient des trucs et puis à 40 ans, ils sont là tous les jours dans leur canapé à boire une bière et à regarder la télé.
Ouais, moi je peux pas, je fais pas ça.
Non.
Moi je
Oh.
regarde pas la télé, puis je bois très rarement. Donc vraiment, je suis vraiment concentré là-dessus. J'ai une session aujourd'hui qui m'a rincé. Hein. On a fait des trucs, des runs un peu difficiles, tu vois, avec il y avait des petits road gaps, il y avait des trucs chauds. Et demain, voilà, on va faire une session BMX dans un trail que je connais pas et qui est un peu tech aussi. Donc on verra bien.
Ouais, mais c'est bien. Et puis rouler avec des gens plus jeunes, ça motive aussi. T'as envie de
Ah ouais,
suivre, t'as envie de
carrément.
pouvoir. C'est cool.
Carrément.
Donc toi, tu roules avec des gens, forcément. C'est souvent avec des gens plus jeunes. Enfin, encore que Steb Rongeon m'a dit qu'il roulait de temps en temps avec toi aussi.
Ouais, mais il est plus jeune que moi.
Ouais, ok, voilà.
Tout le monde est
Mais
plus jeune que moi.
est-ce que tu gardes contact avec les anciens du BMX de cette époque-là, avec Adolphe, avec
Adolphe, je
David,
vois
avec...
plus. Adolphe, je vois plus et j'ai, bah, je vois Christophe Lévesque, tu vois, assez souvent. Bon, c'était pas vraiment de l'époque. Lui, il a commencé un peu plus tard. Et lui, il a revu Adolphe. Moi, j'ai pas vu. Je sais que j'ai appris par des amis qui s'étaient blessés parce qu'Adolphe faisait de la race après. Et il entraînait un club de race et il s'est blessé fortement en race, je crois. Et donc, je pense qu'il fait plus de vélo. Et les autres personnes, j'ai plus vraiment de contact. On a eu des contacts quand on a fait Cavaillon, quand on a fait Béton Hurlant, tu sais, cette expo.
Oui, j'avais été voir.
Et voilà, ces choses-là. Mais sinon, j'ai pas vraiment les gens qui sont à proximité, comme Seb Rongeon qui est à Paris et que je peux voir de temps en temps. Et ouais, voilà, je vois pas. Après, voilà, géographiquement, c'est pas évident, quoi. Là, je sais qu'on part en vacances dimanche. Je vais aller en Vendée. Je vais essayer de contacter Shogun, tu vois, parce que je sais qu'il est par là-bas. Et lui, il roule encore beaucoup, donc j'aime bien.
Ouais, il a passé, je sais pas si t'as vu, il a
Ouais.
montré une vidéo, il a passé un gros gap là sur une
Et
grosse ligne.
une grosse ligne. Et
Ouais.
d'ailleurs, j'ai une autre vidéo. Lui, on voit, il passe les trois premières. Là, on m'a envoyé mon pote avec qui j'ai roulé en VTT tout à l'heure. Il était à cette jam. Et il est rentré lundi. Et il m'a envoyé la vidéo d'un jeune de là-bas qui a passé toute la ligne. Mais elle est énorme. Là, tu vois ce qu'a passé Shogun. C'est déjà gros. Mais après, c'est encore plus gros. Et en fait, ce trail, il est à 25 minutes de là où on va en vacances. Donc,
Pratique.
tu penses bien que. Parce qu'on m'a dit qu'il y a des lignes plus accessibles en bas. Parce que ça, c'est injouable. Ce qu'il a fait Shogun, c'est chaud. Mais Shogun, il a un putain de niveau hein, encore.
Oui,
Hein.
en
Il est plus
rampe
jeune,
et
il est plus
tout.
jeune. Il a plus de 10 ans de moins que moi, je crois.
Il
Mais.
est de 72. Il vient d'avoir son anniversaire.
Ah, ouais, d'accord. Mais ouais, bah, je vais essayer de le contacter et voir s'il y a moyen qu'on aille faire un petit tour sur ce trail-là, quoi.
Cool.
Mais voilà, quand je suis dans des endroits comme ça, j'essaie de voir les gens. Si je passe à un endroit et que je sais qu'il y a quelqu'un que je connaissais avant, après, j'aime pas être trop intrusif, tu vois, dans la vie des gens. Est-ce qu'il va se rappeler de moi? Est-ce que, voilà. Mais si je peux, oui, pourquoi pas. Je suis assez ouvert. J'aime bien aller sur des endroits, sur des spots et rencontrer des gens. Voilà, c'est un truc que je faisais moins quand j'étais jeune, mais que j'aime bien faire maintenant. C'est partager des moments comme ça, c'est toujours cool.
Voilà, l'aspect social, c'est chouette aussi. Moi aussi, maintenant, j'aime bien rencontrer des gens. Grâce à mon boulot, j'ai l'occasion de le faire un peu partout dans le monde. Donc, c'est bien d'avoir des potes un peu partout.
Ouais, non, ça c'est cool, hein, franchement. Moi j'aime bien. Et toi, tu roules qu'en flat alors maintenant, quoi?
Non, 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 je roule, j'ai deux vélos, j'ai essayé longtemps, c'est un peu la galère, j'ai essayé d'avoir un seul vélo pour tout, mais c'est trop spécifique. Je roule beaucoup en flat parce que je me suis aussi un peu fait mal, mais à Vancouver, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir où
À
il n'y a peut-être
Vancouver,
pas quand tu es venu.
il y a, y a...
Il y a des parcs de fous, ouais, il y a des parcs de
Ah
fous
ouais, je
partout.
sais qu'il y a une trentaine de parcs, je crois, à
Ouais,
Vancouver.
sur un rayon d'une heure de voiture, il y a 30 ou 35 parcs, ouais, c'est
C'est
fou.
hallucinant. Dans des parcs en béton que j'avais vu Jim Irons rouler dessus, des trucs comme ça, là.
C'est vraiment bien. D'ailleurs, tu dois venir un jour. Il y a Whistler aussi pour le
Ouais,
VTT.
mais c'est la Mecque du VTT, j'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien retourner à Vancouver. En plus, la dernière fois, j'ai compté, la fois que j'y étais, c'était il y a 35 ans, t'imagines?
Ça a un peu changé.
Ouais, j'imagine, ouais.
Non, il y a puis j'ai un petit dirt là, un petit trail pas très loin de chez moi aussi où je vais. Où il y a trois lignes, une petite, une moyenne et une plus grande, mais pas comme celle de Shogun. Mais voilà, donc je fais un peu de tout, mais je me concentre vraiment sur le flat parce que je fais encore des compètes et on avait
C'est
monté un
cool ça.
contest là qui a malheureusement été annulé à cause du
Ah ouais?
Covid, mais
Ouais.
voilà. Mais je suis toujours dedans aussi à fond, ah bon, j'arrête
Ouais, c'est
pas.
cool. Ouais, je vois tes vidéos et tout. Tu roules en flat. Franchement, c'est bien. Moi, le flat, je trouve ça tellement. J'ai trouvé ça longtemps tellement ingrat parce que je trouve que c'est la discipline la plus ingrate du BMX parce que c'est difficile. C'est des heures et des heures et souvent seul. Puis après, de mon point de vue, pour des sensations qui sont moindres, moi je trouve que, après c'est mon point de vue, hein, après la sensation de rentrer un trick ou une figure en roulant et tout, c'est des sensations différentes, mais c'est pas la même sensation que sauter ou passer une grosse ligne ou un truc comme ça. Mais voilà, moi je suis en admiration, hein, tu vois, les gens qui font du flat comme ça et qui continuent fort à s'entraîner, etc. Moi, je trouve ça, c'est fort, quoi.
Oui, c'est vrai. Mais je suis assez d'accord avec toi. C'est peut-être la première fois où tu rentres un enchaînement ou une figure que tu n'as jamais fait. Ça fait une
Ouais.
grosse sensation, mais après, ça redevient un peu la même chose. Et donc, c'est beaucoup de répéter, de routine, etc. Et d'entraînement. Moi, je roule 10-12 heures par semaine, que en flat, quoi.
Ah ouais, putain, c'est du boulot, hein. Franchement,
2 heures par jour.
c'est. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Tu vois que c'est beaucoup et que c'est. Ouais, voilà, il faut vraiment un mental et une motivation. Moi, je pense qu'il faut un putain de mental pour être fort en flat, je crois.
Oui, et puis il faut être un peu comme tu disais, on est souvent seul, c'est un peu des gens introvertis peut-être, qui aiment bien rester seuls sur leur parking, sur leur truc.
Ouais, moi j'ai fait ça longtemps, hein, rouler dans des parkings tout seul, la nuit et tout, et parce qu'il fallait, tu vois, mais je crois que j'ai jamais vraiment retiré un plaisir qu'il aurait fallu avoir, tu vois, d'accomplissement ou de choses comme ça. Je rentrais des figures, j'étais content, mais voilà, c'était toujours par défaut, tu vois, j'aurais bien aimé faire autre chose, ça que j'essaie de le faire un peu sur le tard, quoi,
Il est
mais
jamais
ça.
trop tard, c'est très bien.
Ouais, enfin, pour moi, ça commence à tourner, hein,
Ça
l'horloge.
commence à pousser.
J'essaye encore.
Écoute, on est un peu au bout là de ce que je
Ouais.
voulais te demander, mais par contre, je te donnais l'opportunité, si tu as un message à faire passer, des remerciements, des coups de gueule ou une philosophie, ou c'est un peu
Non,
à toi.
des coups de gueule, j'en ai pas. J'ai un message à faire passer, que tout le monde s'éclate en roulant et franchement, faire attention aux blessures parce que voilà, je suis passé par là. C'est compliqué et surtout quand on aime le BMX ou même le vélo en général, voilà, faut essayer de. Parce que j'ai vu plein de fois des gars reprendre trop vite, trop tôt, voilà, de pas se blesser parce qu'à un moment donné, alors comme moi, tu vois, dans un certain âge, bah, ça se paye quoi. Ça se paye,
L'addition.
on récupère beaucoup moins vite une chute, voilà, avant le lendemain on roulait, là une chute, on roule une semaine après, dans le meilleur des cas. Donc voilà, juste ça. Après des remerciements, je remercie tous les gens avec qui j'ai pu rouler, tous les gens que j'ai côtoyés, qui m'ont supporté peut-être des fois, j'en sais rien, que j'ai saoulé, je m'en excuse. Voilà, mais je crois que j'ai essayé tout au long de. Encore une fois, je vais pas dire carrière parce que pour moi c'est pas une carrière. Tout au long de cette partie de ma vie qui a été le BMX, voilà, je crois que j'ai essayé d'être toujours. Égal avec tout le monde et j'espère que j'ai réussi en tout cas. Voilà, que les choses progressent dans le bon sens en tout cas, tu vois, qu'il y ait plus d'infrastructures, des spots un peu plus et je sais, c'est ce qui arrive en tout cas maintenant, donc c'est pas mal pour que tout le monde puisse en profiter et moi y compris, hein, si je peux. Voilà, c'est tout. Après, aucun coup de gueule. Voilà, le BMX prend une voie qui n'était peut-être pas celle que j'aurais imaginée, en tout cas du niveau olympique, etc. Mais on verra. Peut-être que ça sera bénéfique pour le sport à la fin, j'en sais rien. Ou peut-être pas, ou peut-être qu'on se sera trompé, ou peut-être que j'en sais rien. Donc ça, c'est encore des interrogations. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu plus connu du grand public aussi. Ça peut être bénéfique aussi, j'en sais rien. Et on est plus ridicule maintenant quand on sort en tant qu'adulte sur un BMX. Voilà, les gens, c'est intégré. On sait ce que c'est. C'était pas le cas à l'époque. Et
on te dit pas quand même que t'es pas un peu trop vieux pour ce petit vélo?
Non, mais moi j'ai jamais eu ça, moi. Et puis voilà, je vais sur des, je vais tout le temps sur des spots, tu vois. Et donc on sait quoi. On sait que voilà, on est là pour faire ça. Et puis après, peut-être que les gens le pensent et le disent pas. Et c'est, mais qu'est-ce qu'il fait lui sur un petit vélo comme ça? Mais après, moi, ça m'affecte pas plus que ça. Voilà, moi, j'ai envie de leur dire, voilà, ce vélo, c'est toute ma vie. Donc, voilà, ce que vous en pensez, c'est autre chose. Si pour lui, toute sa vie, c'est regarder The Voice à la télé, chacun son truc.
Tout à fait, chacun son truc, comme tu dis. Écoute, vraiment un grand, grand merci, José, d'avoir accepté mon invitation et notre discussion. Très, très intéressant. J'ai appris plein de trucs que je ne savais pas. Parce qu'évidemment, à l'époque, moi, je te connaissais par Bicross Magazine ou par les compètes. Et on voit pas tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'on pense. Donc, les discussions, c'est aussi pour ça. Donc, merci à toi.
Non, mais de rien, c'était sympa.